Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chef d'entreprise, artiste sportif, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Céline Afonso-Tirel. Elle est à la tête de l'agence Belle et Hugo, spécialisée en community management et cofondatrice des entrepreneurs bienveillantes. Dans cet épisode, on parle de communication, bien sûr, et de l'évolution de son métier depuis ses premiers Skyblogs, et oui, les fameux Skyblogs, à la création et au développement des entrepreneurs bienveillantes. Et on parle un bon moment de profil atypique, zèbre et HPI, et vous verrez, on décortique tout cela ensemble. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Céline.
Salut Théo.
Et merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi.
Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Oui, donc je suis Céline Afonso-Tirel. J'ai 31 ans, deux enfants, je suis entrepreneur sur Bordeaux. J'ai fondé, je pense qu'on peut dire une micro-agence qui s'appelle Agence Belle et Hugo, qui fait de la communication social média pour des marques, des PME, des artistes, toutes sortes d'organisations diverses et variées. Ouais. Et en parallèle, j'ai aussi fondé, par hasard, et pas toute seule heureusement, un réseau de femmes entrepreneurs qui s'appelle les entrepreneurs bienveillantes. Et en fait, c'est une association, on va dire, qui est vraiment le fruit du hasard et qui est née autour de valeurs assez fortes, comme la sororité, la bienveillance, bien sûr, l'écologie, l'éthique. Et voilà, et ensemble, on fait plein de choses assez chouettes.
On en reparlera pour le coup. Déjà, rien que le nom entrepreneur bienveillante. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans.
C'est ça. C'est ça.
Tu voulais faire quoi quand tu étais petite?
Oh là, plein de choses. ça dépend de l'année. Ça dépend de l'année, mais ouais, plein de choses différentes. Je voulais être veto, journaliste, archéologue. Ouais. Il y avait plein de sujets différents. Puis après, ça évoluait au fil des ans. Prof de lettres, prof de philo après. Enfin voilà, c'est. Il y a eu plein de choses très variées.
Genre des possibles étaient déjà bien là. Ouais. Parce que t'as commencé tes études à l'université de Bordeaux-Montaigne, c'est ça?
Ouais, tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en parler? Vers quoi tu t'es orienté au départ?
Bien sûr.
Bon, en fait, l'idée, donc, c'est comprendre ton cheminement, bien évidemment.
Ouais, c'est chouette.
Comment t'en es arrivé là où t'en es aujourd'hui?
Trop chouette. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup généralement, et pourtant, c'est vraiment de là d'où je viens, en fait. On va dire, c'est. Mon cœur, vraiment, à la base, métier, c'est tout ce qui a trait au littéraire, les lettres. J'adore les mots, j'adore écrire, j'adore lire. Et moi, je viens vraiment de ce monde-là. Donc, en fait, comme j'ai fait un bac littéraire et que j'étais assez passionnée par les matières, c'était vraiment ma zone de confort, on va dire. Je travaillais pas des masses, je passais plutôt bien. Je me suis orientée, j'ai suivi mes copines, hein, tout simplement. Ouais. J'avais pas forcément... Internet, on va dire, c'était peut-être pas aussi fourni, tu vois, qu'aujourd'hui. Et quand tu faisais quelques recherches sur l'orientation, bon, c'était assez sommaire. Tu faisais 2-3 tests, mais bon, tu savais toujours pas trop ce que tu allais faire. C'était extrêmement nébuleux pour moi. Je connaissais rien au monde de l'entreprise. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, je vais être prof sûrement, puisque je suis en L. Donc, je suis partie en fac de lettres, littérature anglaise, en fait, en me disant, voilà, avec option philo, bien sûr. Donc, je me suis dit, bon, je pars vers là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça se passait très, très bien. Les cours étaient vraiment géniaux, les profs étaient top et tout. Et je suis tombée pile poil l'année des réformes de l'UFM. Okay. Et j'ai eu super peur, en fait. Je me suis dit, OK, déjà que je ne sais pas exactement ce que je vais faire, si je veux être prof, en fait, je suis sûre de rien, là. je m'embarque pour 5 ans. Moi, j'étais partie pour passer ma vie à l'université. Hein. J'aurais été très heureuse. Okay. Ouais. Mais j'ai pris un peu peur. Et ce qui s'est passé, donc du coup, ça parle un peu de ma vie perso, mais j'ai rencontré mon mari assez jeune. Ouais. Et du coup, à 19 ans, en fait, j'ai arrêté la fac. Okay. Entre les réformes de l'UFM, il ne m'avait pas inscrit sur le registre pour passer le premier examen. Tu sais, où tu arrives dans l'amphi. Ouais. Énorme amphi. Quand tu sors du lycée, t'es un peu impressionné. Ouais. T'as toutes les petites étiquettes et tout. Donc, je sais pas combien on était de centaines. Et là, il me cherche et il me dit, mademoiselle, désolée, vous n'êtes pas enregistrée. Une demi-heure se passe, je fais des allers-retours jusqu'à la... Voilà. Bref. bref, donc je m'effondre. Hein. Ouais. Je me dis, bon, allez, la fac, j'arrête. C'est pas pour moi. Voilà, donc du coup, grosse désillusion. Je travaillais en parallèle dans un cinéma pour me faire des sous, pour me payer. Je venais du bassin.
Okay.
Donc je faisais tous les jours le bus. Je me levais à 5 heures, je faisais le bus, le train. Ouais, le train, ouais. Le tram et ouais. Ensuite la fac. Et pareil, dans l'autre sens, voilà. Quand je commençais à 8 heures, je me levais à 4h30.
Ah ouais, genre des bonnes journées, quoi.
Voilà, du coup, j'étais... Et puis le week-end, je bossais au cinéma.
Ouais.
Pour j'étais Miss Popcorn, tu vois, okay. Au cinéma de ma ville pour me faire des sous. Et là, voilà, donc j'étais un peu épuisée psychologiquement de ça, malgré toute la passion que j'avais pour ces matières-là, et j'étais un peu dégoûtée. Et du coup, j'ai arrêté. Donc j'ai rencontré mon mari, là, il fallait que je gagne un peu plus ma vie. Donc la rentrée d'après, j'ai fait un truc que je connaissais pas du tout qui s'appelle le BTS en alternance.
Ouais, c'est ça.
Et j'ai fait ça en truc que je connaissais encore moins, en gestion PME-PMI. Alors le nom.
Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est passé quoi là dans son parcours ?
Mais c'était pas du tout prévu. Hein. J'ai pris un truc au pif en fait. Je me suis dit, ok, c'est quoi le trajet boulot de mon mari ? C'est ça, tac, ok, il y a quoi sur la route ? Ouais. Alternance, ok, t'as quoi comme rémunération ? Ah, j'étais hyper pragmatique. Moi qui suis plutôt... pas du tout, tu vois. Et là, non, j'étais très, très factuelle, basique, en me disant, ok, là, il faut appart, tout ça, la vraie vie commence. Donc, du coup, j'ai fait ça.
Okay.
J'ai pleuré pendant un mois.
Bon, bah ouais, j'allais dire par obligation et pas par envie du tout. Quoi,
pas du tout. Ouais. Et surtout que je me retrouvais... Je me retrouvais avec toutes sortes de personnes, hein, de tous les âges. En fait, il y avait un peu de tout dans cette petite promotion. On n'était pas beaucoup, on était 25.
Okay.
Et en fait, il y avait surtout une grosse représentation de jeunes femmes qui sortaient de bac pro, soit, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin technique, secrétariat, tout ça, compta. Et moi, pas du tout, tu vois. Moi, j'étais le nez dans mes bouquins,
Plutôt dans les lettres que dans les chiffres, quoi,
et
très clairement.
Voilà, j'étais complètement larguée. Après, j'aimais bien les chiffres, mais pas la compta, quoi. Donc, la compta, c'est jamais passé. Ouais. Aujourd'hui, c'est comme quoi on peut être entrepreneur sans... Bon, j'ai des notions, bien sûr. Je me dis, très bien, il y a autre chose que la compta, mais gestion, tout ça. Mais voilà, et là, j'ai pleuré pendant un mois. Et je suis arrivée donc, en alternance, donc tu travailles une semaine sur deux. Et j'étais dans des bureaux d'une grande surface, en fait, qui est sur le bassin. Donc, il y avait entre 200 et 250 employés. Et moi, j'ai vu toute la partie compta, RH, donc tout ce qui est ressources humaines et tout, et le social. Enfin, ça, c'était hyper intéressant. Et grâce à ça, le fait de pouvoir concrétiser comme quoi l'alternance, c'est quand même chouette, même quand c'est vraiment pas à ta place à la base.
Ouais, ouais.
Le fait de concrétiser tout de suite mes cours, en fait, ça a donné beaucoup de sens. Et je me suis prise au jeu, en fait. Okay. J'ai trouvé ça trop cool. Même si c'était pas du tout un contexte glamour,
ouais,
tu vois.
Ouais,
franchement, grande surface, tu voyais les gens...
Sexy.
Oh là là, et puis tu voyais les gens, enfin, ils n'étaient pas tous heureux d'être là.
Ouais.
Les hôtesses de caisse, c'est hyper compliqué. Elles s'en prennent plein la tête. Enfin, j'étais un peu en mode éponge émotionnelle. Alors, je recevais tout ça, c'était pas hyper sympa. Mais pour le coup, c'était ma première vraie expérience assez formatrice. Et... ça a fait en sorte que j'ai eu mon BTS très facilement par la suite et puis j'ai pu ensuite continuer et être prise à Kedge au service com grâce à cette expérience qui a rien à voir avec la com.
Complètement.
Mais c'est un premier point de parcours en fait qui n'était pas du tout prévu au programme où j'aurais pu vraiment me dire waouh, ta vie prend vraiment pas du tout le tournant espéré, toi qui avais des rêves et tout. Et en fait non, c'est ça qui a fait que tout le reste après s'est mis en place. Voilà, c'est rigolo.
Trop cool. Et alors, comment et pourquoi t'es allée chez... donc, c'est Kedge, ta première expérience en com, en fait.
C'est ça.
Un peu le début de
exactement.
La suite, j'ai envie de dire.
Et qui s'appelait même pas Kedge à la base.
Quoi, l'époque ?
En fait, moi, quand je suis arrivée à Kedge, c'était en 2011 et ça s'appelait BEM.
BEM, ah oui, c'est
ça, voilà. Et avant BEM, ça s'appelait Subdeco Bordeaux.
Okay.
Mais moi, je connaissais pas.
Ouais.
Et je suis arrivée, si tu veux, donc j'ai passé 2 ans à Kedge. gros coup de cœur, en fait, avec ma N+1 et au-dessus, enfin vraiment, elles étaient, j'adore, hyper fan d'elles, je les suis encore un petit peu. Et ça s'est vraiment trop bien passé, donc elles m'ont fait confiance tout de suite. Et ce qui était génial, c'est que j'étais en transverse sur tout le service com, en fait, et comme marketing même un petit peu. Et si tu veux, ce qui se passait, c'était qu'à l'époque, c'était vraiment comme une petite agence de com au milieu de l'école. Ils avaient un budget, je crois qu'à l'époque, ils avaient... peut-être un million, tu vois, d'euros. Donc, de quoi faire des petits trucs sympas,
ouais,
tu vois.
Clairement.
Et il y avait une community manager, il y avait des graphistes, tout ça. Donc, je découvrais vraiment tout ça. Vraiment, vraiment. Et moi, on m'avait toujours dit que la communication, c'était... c'était nébuleux, que c'était quelque chose de très bouché. Enfin, je me souviendrai toujours de ma mère, de mes copines, me disait justement qu'elle était partie en communication et je voyais le vide dans les yeux de ma mère, mais tu vas faire quoi du coup concrètement en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis du coup ça n'évoquait rien chez moi, donc là c'était génial de découvrir ça et surtout de découvrir les gens. Parce que là pour le coup j'ai vraiment découvert, enfin que ce soit les gens du service ou les intervenants, que ce soit des pros, des professeurs, c'était vraiment génial. Et les étudiants. Étudiants, parce que j'avais le même âge qu'eux. Du coup, en 2011, j'avais 21 ans. Donc, du coup, il y en a même avec qui j'ai gardé contact, tu vois, et on se revoit souvent. Ils étaient au BDE, enfin voilà, ils avaient les assos. Énorme. On faisait les admissibles ensemble. Donc, c'était trop chouette, quoi. Et non, c'était vraiment rigolo. Mais du coup, pardon, je crois que tu avais posé une autre question à la base pour Kedge. Non, je sais plus. Non, pardon, c'est ça. Je voulais juste.
Moi, souvent, j'oublie mes questions. Alors, si toi, tu penses que j'en ai posé, que je les ai
C'est clair, non, mais tu sais, je m'étais fait un petit point dans ma tête, et puis du coup, j'étais, mais attends, c'était quoi déjà, sur quoi je devais revenir? Non, c'était la marque. En fait, le truc qui était hyper intéressant, au-delà du fait de découvrir les métiers, c'était que j'ai vraiment assisté à la création de la marque, en fait.
De la marque Kedge, pour le coup, donc passer de BEM, BVM.
Exactement.
Enfin, BEM, on disait BEM ou BVM?
On disait BEM. Il y en a BEM, qui disaient, alors il y avait des gros débats, hein. C'est comme chocolatine, pas au chocolat. T'avais la BEM, t'avais BEM, t'avais, voilà, il y avait plein de trucs.
Et donc, BEM à Kedge, pour le coup, tu as assisté à ce changement de
à la création, à la création du nom. Et alors, c'était cool de voir ça, mais du coup, c'est aussi ce qui a fait que moi, j'ai été évincée, entre guillemets. Et qu'à l'issue des 2 ans, en fait, c'était un format associatif, enfin, un statut associatif, il s'était rattaché à la CCI. Ouais. Et donc, du coup, ils pouvaient faire plusieurs CDD, chose qui n'est pas autorisée dans le privé. Et voilà, donc moi, c'était une création de poste, il était nécessaire et tout, sauf que Bernard Beltante de Euromed, du coup, a supprimé des postes en doublon qui étaient sur les 2 structures, donc de Marseille et de Bordeaux, et le mien était concerné. Okay. Du coup, voilà, donc là, c'était par exemple en juin-juillet 2013, et N+1 m'a dit, mais Céline, c'est pas grave, passe ton été, voilà, tranquillement, tu reviens en septembre, et puis on te trouve une autre place quelque part. Et j'étais là, mais non, en fait, Stéphanie, je pourrais pas, parce que je serais un peu plus grosse, en fait, en septembre, et j'étais enceinte.
D'accord.
Voilà, okay. Donc du coup, c'était assez spécial, tu vois, encore un coup du destin, enfin, je sais pas trop comment tu sors, coup du destin, sur le moment, tu le vis pas bien, tu vois, je me suis dit, mais mince, c'est horrible, enfin, j'avais trouvé une boîte trop top et tout, avec des gens super, et je m'épanouissais. Et là, je me dis, mais le projet de ma vie, tu vois, à l'époque, je rêvais d'être maman jeune et tout, donc là, j'étais heureuse comme tout. Je me disais, mais mince, ça se goupille pas si bien que ça, je m'étais donnée à fond. Et en fait, là, c'est pareil, quoi. C'est aussi un truc qui a fait que mon parcours, il a pris un autre sens. Et même, voilà, c'est pour ça aujourd'hui que je suis community manager. Puisqu'en fait, comme je me suis retrouvée au chômage, forcément, c'est la suite. J'ai quand même essayé, hein. J'ai essayé de postuler, j'ai envoyé des lettres et tout, des CV, mais j'étais transparente. Je disais que voilà, j'étais enceinte et tout, pour pas qu'il y ait de soucis. Et non, ça sert à rien de faire ça. Je pense pas que ça ait changé en quelques années, mais... Non, ça marche pas.
Était pas bon et bon à la fois, parce qu'au final, mais
bien sûr, c'est ça en fait. C'est quand rétrospectivement, quand tu regardes les événements, tu dis waouh, wow, c'est marrant, mais non, il n'y a pas de hasard, c'est rigolo. Après, ça, bien sûr, que ça dépend de ce que tu fais des choses, mais voilà, là ça s'est passé comme ça. Donc en fait, comme je m'ennuyais à mort et que j'ai toujours eu, moi, un côté un blog, enfin tu vois, depuis que je suis ado, je pense que t'as connu peut-être les skyblogs,
mais
tout
mais oui, j'en avais un, alors pour le coup je le dis, je l'assume, parce que j'en avais qu'un, il s'appelait Déjanté pour la vie.
Ah, trop bien. Il est encore actif,
et je crois qu'il est
sûrement mais oui, parce que on a tous perdu nos mots de passe. Moi aussi, j'en ai 3-4 qui tournent encore. Des fois, je me dis, mon dieu,
je l'avais retrouvé l'année dernière, je l'assume,
c'est un peu la honte, mais ouais, moi c'est pareil, j'en ai 3-4 qui seront à vie à tout jamais.
Donc, tu avais commencé avec ça.
Voilà, final, j'avais commencé avec
le
ça.
Le début du community management.
C'était les premiers. Est-ce que c'était les premiers réseaux sociaux? Ouais, peut-être. En tout cas, premier création de contenu. Ouais, tout à fait. Et moi, j'adorais ça. Enfin, je sais que j'écrivais des pavés et tout. Enfin, j'adorais, tu vois, écrire des vraies histoires. Ce qui était peut-être pas trop dans les usages et tout. Tous.
Pas dans le mien.
C'était plus qui
C'était un peu en mode, t'es ma besta, content
c'est
de.
C'est ça, ouais, t'es trop belle, je te kiffe trop. C'était trop ça, avec les petites photos. C'était à galerie des portraits de tes potes, quoi. C'était ça. Ouais, pour certains, c'était aussi des tableaux de chasse ou des trucs comme ça. Je me rappelle de certains anciens copains qui étaient assez spéciaux avec ça. Un peu de tout, ouais.
Mais toi, c'était plutôt sur la partie, effectivement, rédactionnelle, raconter des histoires.
Ouais, bien sûr, la partie, le grand mot, éditorial.
Éditorial,
je savais pas ce que c'était à l'époque. Mais ouais, c'était ça, en fait. Ouais. C'était déjà présent, en fait. Pas du tout professionnalisé. Mais là, du coup, voilà, ça m'appelait encore. Mm-hmm. Et comme j'étais jeune maman, jeune future maman, j'avais 23 ans. En 2013, et j'avais pas beaucoup de potes autour de moi qui étaient enceintes. J'étais un peu dans les premières. Mon mari est en plus plus âgé et tout. Donc voilà, j'étais un peu en décalé, tu vois, par rapport aux autres. et j'avais besoin de partager ça et de trouver une sorte de petite communauté bienveillante et tout. Mais je partageais juste comme ça pour me faire du bien. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. Effectivement, il y a une communauté qui s'est créée, notamment sur Insta. Parce que Insta, pareil, du coup, j'étais aussi depuis les débuts, enfin, peut-être pas le début, mais en 2012, j'étais sur Insta. Ouais, je partageais tous les jours sur Instagram. Mais c'était, voilà, et, c'était vraiment mon truc d'éclate. Et donc, le blog, Blogspot, Insta, Twitter ensuite.
Ouais.
Et Twitter, on va dire, c'est peut-être la plateforme qui a fait que je me suis professionnalisée. Parce qu'en fait, sur Twitter, à l'époque, tu avais... Alors, j'ai découvert avec Kedge, Twitter. Tu avais tous les communicants, les journalistes, les pros, en fait, du web marketing, des médias, qui étaient d'ailleurs très accessibles par rapport à aujourd'hui. Enfin, tu pouvais parler à peu près n'importe qui. Voilà, j'avais un copain qui avait parlé à Barack Obama. Voilà, mais c'était vraiment pas les débuts de Twitter, mais presque. Tu vois, tu dis, mais c'est complètement dingue. Et en fait, là-dessus, j'ai effectivement découvert... tout le web marketing, tout ce que moi, tu vois, je faisais par plaisir, en fait, assez naturellement, et qui était, en fait, des vrais métiers en train d'émerger, en train de se structurer. Il n'y avait pas encore forcément de formation dessus, en tout cas pas estampillé comme tel. Mais là, on sentait bien, voilà, que tout était en train de bouillonner dans tous les sens, qu'il y avait des experts qui se positionnaient, que tu avais des gens qui étaient déjà depuis plusieurs années, qui commençaient, voilà. Et en fait, j'ai commencé à les suivre, j'ai commencé à retweeter des choses, j'ai commencé à moi-même créer des petits contenus là-dessus. Et du coup, je me suis pas positionnée en expert, je pense que c'est un bien grand mot, surtout que je n'avais pas du tout fait mes preuves, tu vois. Mais en fait, en fin de compte, tu te positionnes quand même assez vite comme référence en termes de connaissances quand tu fais de la veille. Quand tu fais de la veille tous les jours, que tu ajoutes ton petit grain de sel et tout, que tu commences à commenter un petit peu, que les gens comprennent que tu sais un petit peu de quoi tu parles aussi, forcément que tu ça atteste de certaines compétences,
complètement,
petit savoir, tu vois. Et du coup, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à... pareil, c'est un bien grand mot, mais à me faire remarquer, entre guillemets, par une première personne qui m'a demandé de gérer son personal branding. Une seconde, alors très drôle, du coup, il y en a un qui est passé dans ton podcast.
Donc David.
Je crois que c'est mon deuxième client, en plus, trop drôle.
Trop cool.
Qui n'était pas du tout chez Hervé, du coup, à l'époque, parce que c'était en 2000.
Il était chez Innov.
C'était chez Innov, Il était à la fin de son parcours chez Innov, d'ailleurs. Il ne l'avait pas dit à l'époque, mais... c'était... je pense, je ne sais pas s'il le savait exactement aussi, mais... mais c'est ça. Et puis, en fait, après, voilà, une start-up est arrivée. Après, écosystème bordelais aussi qui se met en place. Et donc, je me suis... En fait, si tu veux, j'ai commencé à bosser et j'ai ouvert ensuite, mais au bout de, je sais pas, 2-3 mois, parce que j'y croyais pas trop, j'ai ouvert mon statut auto-entrepreneur.
Okay.
Donc, j'étais un peu larguée. je gérais pas ma compta, bien sûr. je me sous-vendais.
Bon, auto-entrepreneur.
Oui. Non, mais tu sais, ton livre de recettes, quoi. Tu vois, moi, j'étais un peu à l'arrache. Bon, après, j'avais pas des masses de clients. Il m'en suffisait de 2-3 pour mourir, vois. Et puis, j'étais jeune maman aussi, après, en fait. Quand je me suis vraiment lancée, j'avais mon petit bout qui était avec moi, qui était gardé que 2 jours par semaine à la crèche. Donc, s'organise entre les siestes et tout, c'est un sacré truc.
Ouais, sacré rythme.
Voilà, donc j'étais plutôt fière de me dégager un salaire, tu vois. J'étais, c'est cool. C'est cool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc du coup, là, on était en 2014, 2015, et on va dire, fin 2015, début 2016, j'ai arrêté.
Ok.
Donc, j'ai...
Pourquoi ?
Parce que, en fait, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. J'étais vraiment le stéréotype. Je m'éclatais dans ma mission, mais j'étais seule, en fait, si tu veux. J'avais pas de repères, je partageais pas trop avec d'autres freelances. Et d'ailleurs, je savais pas comment les trouver.
Est-ce que le terme existait, de freelance, déjà?
Mais non.
Mais
c'est ça, en fait, c'est fou comment ça a explosé en quelques années.
Ouais.
J'étais hyper seule, quoi. Je rêvais de retourner à une vie de bureau, mais même pour un emploi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, Même pour un emploi, tu vois... c'est pas prétentieux de dire ça, mais peut-être pour lequel j'étais pas surqualifiée, mais tu vois, je rêvais d'être secrétaire, assistante et tout. Je m'étais, mais au moins, je suis avec des gens et tout, et j'ai une vie de bureau, je suis pas seule, quoi. Et là, j'ai tout fait. Okay. Et je le dis, je le partage vraiment parce que je sais que c'est déjà arrivé à d'autres aussi et qu'ils se posent la question de se relancer ou pas. Et bah moi, comme quoi, aujourd'hui, je m'éclate. Je ne me suis jamais autant sentie à ma place parce que maintenant, la méthode est bonne, parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à savoir ce dont on a besoin, comment on a envie de travailler. C'est fluctuant aussi, c'est plein de mouvements, on se réinvente tout le temps. Et il ne faut pas, faut pas avoir peur d'être déstabilisé. En fait, il y a plein de vagues, il y a plein de choses différentes à affronter. Et là, je m'étais pris une vague et en fait je suis passée dessous et je suis pas remontée et j'ai bifurqué vers autre chose.
Okay.
Donc en fait je suis retournée à un emploi salarié mais pas très longtemps, juste quelques mois, et pour valider aussi le fait que j'avais quand même envie d'être en freelance.
C'est pas fait, c'est ça. J'en ai marre, je retourne en salarié, et puis là t'arrives, tu es là, réponse.
Non mais c'est ça, ouais. En fait non. Ouais. Après j'adorais les gens qui étaient sur place, j'ai découvert aussi quelqu'un qui est complètement atypique et on s'est retrouvés après, mon ancienne manager. Et en fait, c'était un projet qui avait du sens, c'était auprès des jeunes pour la réinsertion pro et tout. C'est un organisme qui s'appelle l'EPIDE d'ailleurs, qui est vraiment très bien. Ouais. J'ai fait les choses bien, tu vois, c'est que moi je suis retournée vers un truc public encore, donc où il y a quand même une certaine hiérarchie, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas trop de liberté. Et du coup, c'était un peu l'opposé de ce que moi, en fait, fonctionnement a besoin.
Et puis flexibilité.
Flexibilité zéro.
Rapidité.
C'est ça. Et puis pour le coup, j'étais vraiment sur un poste, en fait, très très exécutant. Okay. Donc c'était pas du tout épanouissant. Donc la seule chose où moi j'y trouvais mon compte, c'était les gens et les jeunes, en fait, voir du sens, en fait, là-dedans. Ouais. Mais en fait, très vite, je me suis ennuyée pareil. Donc j'ai repris une formation à côté. Okay. Donc en fait, j'ai repassé un bachelor pour vaincre un peu mon syndrome de l'imposteur, parce que je me suis aussi peut-être que si tu as eu cette réflexion par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que tu te sens pas, alors je vais pas dire de te vendre parce que de toute façon je sais pas me vendre, mais on va dire d'y aller, quoi, d'être sûr de toi et de peut-être de te vendre pour ce que tu veux, ce que tu sais faire. Et donc, j'ai fait avec Icademy, c'est un peu les pionniers en France de l'enseignement à distance. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et je me rappelle que même quand je passais mon BTS, je regardais déjà leur formation. Leur site était tout pourri à l'époque, tu vois, mais je leur niais déjà dessus. Ouais. Et donc là, c'était le fameux le bachelor marketing communication que j'ai fait à distance. Et en fait, je l'ai terminé avec un deuxième bébé dans le ventre.
Okay,
donc, j'ai passé les examens avec mon fils. Je sentais les coups et tout. Donc c'est
pas à 4 mois en plus.
Parce que comme c'était mon deuxième, enfin petit focus
grossesse. Pardon, mais... oui, parce que je t'avoue que j'y connais pas.
Tu verras, mais écoute, si t'as envie, mais en fait, quand c'est le deuxième, la peau est plus fine.
D'accord.
Et en fait, tu sens beaucoup plus tôt, en fait. Donc là, j'étais à 4 mois et quelques, la deuxième session d'examen. Et j'avais fait un stage aussi entre-temps assez long chez Cities Bordeaux, qui s'était super bien passé et qui aussi attisé ma fibre écolo.
Yes.
Le fait de découvrir des gens aussi qui étaient vraiment concernés par la planète, qui étaient alignés entre leur discours et leurs actes, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, tu te remets vachement en question, tu culpabilises aussi, tu dis waouh, je suis à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire. Ou tu te dis ok, en fait, je pensais être écolo, mais pas du tout. Où tu dis ok, bon, chacun fait à son niveau, mais là c'était un peu une claque pour moi et une révélation. Et à partir de ça, en fait, je me suis dit je vais me relancer. Bon, j'ai fait mon bébé d'abord. J'ai eu mon bachelor, j'ai fait mon bébé, mais je me suis dit ok, faut que tu te relances en indépendante. Entre temps, les groupes de freelance ont explosé.
Yes.
Le groupe de Pauline Tréquessa.
Le collectif Cosme.
Bien. Et puis elle avait fondé, du coup, avant de faire le collectif, en fait, elle avait fondé un groupe sur Facebook. Je sais pas combien. On est dessus d'ailleurs, je me sens peut-être 2000, je ne sais plus.
Ok.
Beaucoup. Et tu n'y es pas dessus.
Mais non, c'est quoi le nom, peut-être?
C'est Freelance à Bordeaux, tout simplement.
Peut-être. J'y suis peut-être allé.
Ouais, en fait, ça se trouve. Ouais. Ça
j'ai
se trouve
qu'il y est sans.
Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, il y a plein de. Tu devrais regarder d'ailleurs des petites pépites dessus aussi. Il y a plein de freelance bordelais et c'est génial parce qu'il y a beaucoup d'entraide et tout. Et il y a des rencontres, il y a des afterwork, il y a des trucs. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est génial. C'est ce qui me manquait. c'est ce qui me manquait, cette effusion. C'est, voilà, c'est, j'avais besoin de ça, de ces synergies et tout. Donc, du coup, effectivement, j'ai préparé ma relance. Mm-hmm. Et donc là, j'ai tout relancé, LinkedIn, Insta, le site. Donc, j'ai fait mon WordPress moi-même avec un tuto. voilà, l'arrache et tout. Après, tu fais évoluer tes outils et tout. Mais ouais, petite stratégie de contenu, entre guillemets, mais vraiment très gentille sur Instagram. Et je relançais tout, donc je repartais de zéro. Et en fait, en faisant ça pendant, peut-être trois bons mois, j'avais déjà mes clients pour... donc là, on était, tu vois, au printemps, j'avais déjà mes clients pour la rentrée, en fait. Okay. Sachant que l'été, je voulais profiter de ma famille.
Ouais.
Donc, je les ai fait patienter. Et en fait, je suis arrivée en septembre et j'ai ouvert mon statut. Et voilà, j'étais déjà full, en fait.
Trop cool.
Donc, j'étais trop contente, surtout que c'était avec des gens que je connaissais déjà, que j'adorais.
Ouais.
Et du coup, voilà, il n'y avait pas de problème de confiance ou quoi. Et c'est juste que humainement, on savait que ça matchait super bien.
Mmh.
Et après, ils avaient effectivement besoin de community manager. Oui, c'est vrai que du coup, je n'ai même pas présenté en fait mon métier. Mais bon, après, aujourd'hui, tout le monde.
Non, alors je vais quand même te poser d'autres questions. Parce que j'en ai une qui a déjà un mot qui est ressorti depuis tout à l'heure.
J'adore.
On est à quelle année là, à peu près, quand on s'est dit
rentrer? Mais là, du coup, c'était septembre 2018.
Ok, ça marche, donc effectivement. Ouais. Très bien. Ouais. Parce que c'est en 2019 que tu commences à créer pas mal de choses aussi.
Ouais, c'est ça. C'est juste après.
Ouais, c'est ça.
Dans la foulée.
Juste, je vais te demander deux définitions. Celle du web marketing.
Ouais, bien sûr.
Parce que nous, ça nous parle à tous les deux, mais voilà. Mm. Et community manager aussi, pour le coup, si tu peux.
Avec grand plaisir.
Pour apporter un peu de contenu aussi. Bien sûr. Savoir exactement de quoi on parle.
Surtout que j'adore parler de ça. Enfin, c'est passionnant. Après, c'est vrai que c'est des métiers qui sont en permanence en évolution, qui se complexifie de plus en plus, qui se professionnalise aussi beaucoup et qui ça évolue tout le temps. Donc ce qui est génial, c'est que quand tu aimes apprendre, que tu es curieux, et c'est fait pour toi. C'est fait pour que tu t'éclates.
Parfait.
C'est fait pour les gens comme ça. Et là, du coup, le web marketing, donc c'est une thématique assez large finalement qui va englober effectivement tout ce qui va être un peu communication, mais plus commerciale sur toutes les plateformes en fait digitales. Mm-hmm. Ça va des sites aux réseaux sociaux, newsletters, aux publicités. Enfin, tu peux parler des annonceurs, des régies d'annonces comme Google AdWords. Tu peux parler, nous, sur le Business Manager, on fait de la pub aussi sur Facebook, Insta, LinkedIn, pareil. Enfin, tous les réseaux sociaux maintenant ont leur régie publicitaire. Web marketing, on parle aussi de tout ce qui est référencement naturel. Ça n'est pas forcément passé que par Google AdWords. Mm-hmm. C'est très large. En fait, c'est tout ce qui va faire en sorte que un projet, un site, une marque, quoi, va effectivement atteindre ses objectifs, en fait, soit de vente, soit de visibilité sur le digital. Voilà. C'est vraiment très large parce qu'il y a tellement de métiers et nous, on doit souvent faire beaucoup de pédagogie pour des clients. Parfois, alors maintenant, moi, j'ai beaucoup de clients qui sont de plus en plus matures sur le sujet, mais j'ai encore beaucoup de clients avec qui il faut passer, faut passer beaucoup de temps et c'est normal, après, ça évolue tout le temps. Et à qui il faut vraiment... il faut faire plein de pédagogie, en fait. T'as pas trop le choix pour expliquer. En fait, il y a aussi besoin d'une autre personne parce que moi, mon métier, c'est ça. Mon champ d'action, mon expertise, c'est ça. Et du coup, je vais expliquer. Et puis, en fait, il faut une autre pour compléter sur ça, tout ça. Et ça m'appartient pas. Ah, mais vous faites quoi, alors? je fais... le truc qui reste drôle, c'est « Mais si vous ne faites pas de site internet, qu'est-ce que vous faites ?»
Alors, comment te dire? On va reprendre dans les bases.
ça arrive de moins en moins, ça arrive encore. C'est rigolo.
Mais normal.
C'est normal.
Parce que,
bien sûr. Bien sûr.
C'est un univers qui est très, très vaste.
C'est ça. Et même quand tu prends des trucs, tu vois, plus ciblés, comme le community management. Moi, je sais qu'aujourd'hui, tu vois, et c'est pour ça que, du coup, j'expliquerai après comment je me suis organisée, parce qu'au début, je me suis relancée juste, entre guillemets, en freelance.
Ouais.
On va parler de ça aussi.
Ouais.
Et là, j'ai fait un peu évoluer le format, où je travaille avec d'autres freelances, de manière régulière, enfin permanente, même en fait, on est tout le temps ensemble. Et en fait, pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin d'autres compétences, en fait, d'autres expertises, et c'est impossible, même sur un sujet assez délimité comme le community management, c'est plus possible en fait d'être à la pointe de tout, ne serait-ce que les plateformes, ça évolue tout le temps. Tu peux pas être ultra expert de LinkedIn et ultra expert de Facebook Insta et ultra expert de Pinterest et YouTube et machin, c'est pas possible. Donc t'es obligé forcément d'avoir et cette compétence à la fois métier, mais aussi ce qui est bien, c'est une compétence secteur, c'est-à-dire que moi à la base je voulais me spécialiser vraiment sur tout ce qui est organisation engagée et tout. Et on va dire, c'est le cas, je m'y retrouve vraiment en majorité. Mais bien sûr que j'ai des clients qui sont encore en transition, on va dire, enfin, qui ne sont même pas encore en transition, mais qui se posent la question tout juste, tu vois, et qui ne sont pas encore là-dedans. Donc, je parle d'engagements sociétaux, sociaux, environnementaux, tout ça. Mais en fait, voilà, c'est des clients qui vont être dans tous les domaines aujourd'hui. On est de la couche éco-responsable, l'aéronautique, le promoteur immobilier. Enfin, il y en a, il y a de la start-up, il y a des artistes, il y a de tout, tout, tout. Et du coup, forcément, c'est bien d'avoir des gens qui ont des spécialités et des appétences. Et du coup, en fait, les gens de mon métier, le top du top, c'est quand ils ont une double compétence. C'est quand, par exemple, du community management, il en faut peut-être dans tout. Parce que le community management, c'est quoi ? En fait, la base, c'est communiquer sur les réseaux sociaux, donc sur les médias sociaux, donc toutes les plateformes confondues. Après, on peut mettre énormément de choses dans le community management. Moi, je fais aussi des articles de blog, des newsletters. Il y a énormément de choses. La base, le travail de base du community management, c'est la stratégie social media. Moi, c'est un peu ma partie préférée avec toute la ligne éditoriale, le storytelling, poser la ligne graphique, réfléchir sur quelle plateforme on va aller pour que ça ait du sens, où est-ce qu'elle est la cible, entre guillemets, j'aime forcément le mot, mais l'audience, on va dire la communauté. Pourquoi y aller, en fait ? C'est quoi l'objectif ? Établir un calendrier, des plans d'action, tout ça. Ça, c'est hyper intéressant. Et après, la mise en œuvre. Donc, quand en général la stratégie est appelée, on déploie et ça se passe bien et tout. Et c'est là où tu fais intervenir les bonnes personnes en opérationnel. Donc, c'est... après, je pourrais en parler des heures. J'y ai tellement à dire.
Je vois ça.
C'est chouette.
C'est intéressant.
Franchement, c'est chouette. Et il y a la publicité qui s'est rajoutée par-dessus aussi. Au-delà de tout ça, qui est un vrai sujet à part. Et moi, si j'avais pas, tu vois, deux, trois expertes, un expert aussi qui intervient des fois sur le sujet, ce serait compliqué parce que c'est ultra complémentaire, en fait, aujourd'hui.
Complètement. Et donc, tu parlais tout à l'heure 2018, où tu te relances. À ton compte.
Yes.
Alors, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête. C'est à la fois, en 2019, tu commences à lancer pas mal de choses, notamment donc, l'agence Belle et Hugo et les entrepreneurs bienveillants.
En même temps.
En même temps, très bien, voilà. Et j'ai aussi envie de parler, est-ce qu'on en parle maintenant de HPI, de tout ça ? Non, on ira après.
Ça, c'est un vrai sujet.
Ça, c'est un vaste sujet, on ira plus tard là-dessus. Mais donc, en 2019, tu lances, donc tu structures en sous forme d'agence. C'est ça, tu parlais tout à l'heure, on parle de changement de structure. Est-ce que tu peux nous en parler déjà de ça et après on ira sur les entrepreneurs bienveillants.
Ouais, et je pense que ça parlera, tu vois, à pas mal de freelances peut-être qui se posent la question. Moi, je suis toujours en interrogation permanente sur ça. Parce que je pense que quand t'es freelance, à un moment donné, et on va dire que ça fonctionne bien, tu vois, et même avant que ça fonctionne bien, tu te poses la question de te dire... est-ce que j'ai envie de grossir, entre guillemets? Comment, tu sais, il y a un mot dans la startup, comment je scale? Voilà, c'est ça. Et en fait, l'objectif, c'était pas forcément de scaler. Comment ça s'est passé pour moi? C'est que, effectivement, je suis arrivée donc, en septembre 2018 à me relancer et j'étais full, en fait, en temps. C'est même pas le plafond, tu vois, de l'auto-entrepreneuriat. J'étais pas loin, à peu près. Donc, j'avais pas besoin, de quoi vivre bien, j'étais cool. C'est pas pour ça, je veux dire, que j'ai fait la bascule en société. C'est parce qu'effectivement, il y avait d'autres missions qui arrivaient et qui, m'enchantaient et que j'aurais trop voulu faire et je pouvais pas, en fait. J'avais pas le temps. C'était pas possible. Donc, j'étais hyper frustrée. Et j'avais aussi, dans mon périmètre, des freelances qui étaient top, qui bossaient très bien, qui faisaient le même boulot que moi. Et qui n'avaient peut-être pas de flux comme ça entrant qui arrivait. Et moi, j'essayais de faire matcher un peu les gens. Et en fait, ça ne matchait pas toujours. C'était compliqué. Donc, je me suis dit, OK, on va peut-être faire différemment. Vu que moi, j'avais aussi des parties que je préférais. Donc, je te l'ai dit, tout ce qui est stratégie, storytelling, tout ça, ça, j'adore. Et après, voilà, il y a peut-être aussi une partie opérationnelle où d'autres filles le feront tout aussi bien, voire mieux que moi et tout, et s'éclateront tout autant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas effectivement structurer de sorte à ce que... j'attrape entre guillemets la mission. Je pose tout le périmètre avec le client. Je pose la stratégie, etc., auquel j'associe bien sûr une personne si elle doit reprendre derrière. Mais ensuite, voilà, je sous-traite, je coordonne en fait cette partie opérationnelle en binôme avec quelqu'un. Et donc en fait, quand je suis passée en société en juillet 2019, c'était spécifiquement pour ça. Et ça avait bien commencé après le Covid.
Le fameux, effectivement.
J'en reparle juste après, mais, mais juste pour sur la structuration, en fait, c'était vraiment l'idée. Et voilà, et c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est génial. Le seul truc que j'avais pas, paramétré, enfin pris en compte, c'est le facteur humain. Parce que, effectivement, les gens, c'est beaucoup, beaucoup de temps. et n'est pas manager qui veut. et forcément, et les recrutements, c'est aussi une compétence. Savoir s'adresser à quelqu'un, c'est une compétence. Faire le tampon si jamais il y a des retours clients et que tu as quelqu'un d'hypersensible en freelance, c'est une compétence. Ouais. Et j'ai eu plein de loupés. Hein. J'ai eu plein de loupés.
C'est de l'humain, ça.
C'est ça. Mais du coup, c'est rigolo. C'est rigolo parce que tu montes... Enfin, moi, j'ai jamais autant appris et progressé, on va dire. J'ai encore plein de progrès à faire, des milliards de progrès. Mais j'ai jamais autant progressé que depuis que je suis entrepreneur parce que t'es dans le dur, quoi.
Non, bah,
tu passes ton temps à régler des trucs et essayer de faire en sorte que le chemin se passe bien pour tout le monde. Et là, tu vois, d'un côté, en fait, je me retrouve effectivement à gérer les soucis, entre guillemets, clients. Enfin, leur satisfaction et aussi la satisfaction freelance en se disant ok, j'ai envie qu'elle soit bien, j'ai envie qu'elle soit cool, qu'elle soit contente de bosser là-dessus et tout, et de gérer aussi le budget, de se dire ok, il faut que ce soit juste pour tout le monde du coup, donc chose que tu vois, tu dois apprendre.
Tu passes en manager et c'est un nouveau métier pour le coup.
C'est ça. Et que ce soit fair play pour tout le monde aussi. Donc c'est de l'apprentissage vitesse grand V et tout, mais du coup ce qui est vraiment chouette. Donc ça c'est pour Agence Belle et Hugo.
Ouais. Et alors pourquoi Belle et Hugo?
Pour beaucoup de choses. Faudrait que je le pose à l'écrit, ce storytelling, parce qu'en fait je suis très très mauvaise en pitch, tu vois.
D'accord. Alors.
Non mais en fait l'écriture, pourquoi l'écriture? C'est parce que moi j'ai, comme on en parlait justement, moi j'ai mon cerveau qui part en live dans tous les sens, tu vois. Des idées qui se chevauchent les unes les autres, et du coup quand j'ouvre la bouche, et surtout avant c'était encore pire, enfin, je sais même pas d'ailleurs, ça devait être pareil. Je pense pas que j'ai progressé là-dessus, mais disons que ça peut paraître effectivement très brouillon et je saute d'une phrase à l'autre et mes idées ne sont pas du tout à la hauteur. Alors c'est pour ça que je me suis tournée vers l'écriture, je pense, parce que l'écriture me permet quoi, de poser les idées en fait,
et de revenir dessus
exactement. Mais c'est ça, quand j'ai totalement, tu vois, quand j'écris, et c'est une partie importante de mon travail, je passe mes journées à écrire au final, pour les autres beaucoup, mais j'écris, mais je reviens dessus, je repose une idée entre les deux. Tu peux pas le faire quand tu parles. Tu peux pas rattraper
un peu,
une phrase.
C'est un peu compliqué,
ouais, c'est ça. Mais ça, j'adorais, tu vois. Pouvoir dire, attends, entre ça et ça, il y avait ça aussi, voilà. Puis attends, je vais le développer un petit peu. J'ai oublié une liste à puce, tu vois. Attends, entre guillemets. Là, mais ça, tu peux pas, tu vois. Tu peux le faire que quand tu rédiges un article, une newsletter et tout.
Ouais.
Mais voilà, c'est un peu ça.
Et donc, Belle et Hugo.
Au
pire, tu vas rater.
Ouais, mais c'est toujours la l'amour des lettres, en fait.
Ok.
J'aime beaucoup les contrats, j'aime beaucoup la dualité, j'aime beaucoup les lettres. Belle et Hugo. Belle, c'est à la fois, tu peux rigoler, à la fois ma chienne.
Ok, d'accord.
qui est extraordinaire.
Ouais, Belle Pompon, c'est le nom de mon chat. Hein,
oh, mais non, génial, d'accord. Bon, mais tu vois.
Je vais pas te juger
là-dessus. Je savais pas, donc tu vois comme quoi. Mais voilà, écoute, ça m'inspire et ça, c'est une petite chienne extraordinaire qui vient de la SPA.
Ok.
Il y a des projets d'ailleurs avec les bienveillantes, avec la SPA et tout, on parlera peut-être. Mais donc pour ça à la base, et aussi parce que Belle, c'est le personnage de fiction préférée de ma fille, qui est à la fois, certes, une princesse, mais pas vraiment, c'est-à-dire qu'elle lit beaucoup, elle est aventurière, elle a pas peur et tout, et puis elle est assez particulière, elle est un petit peu atypique aussi, tu vois, donc j'aime beaucoup qu'elle ait cette personne comme modèle, et Hugo, pour Victor Hugo, qui est juste, une référence exceptionnelle pour moi, et pour pas que pour moi d'ailleurs, mais qui est juste un homme incroyablement brillant et un personnage de l'histoire et d'une inspiration.
Ok, ça va le pitch en fait, tu
vois,
pour expliquer Belle et Hugo, ça va, c'est clair.
Il faut poser quelque chose de plus poétique pour au moins être à la hauteur, tu vois, ou essayer de l'être, mais bon voilà, t'as l'idée de base.
Ok, très cool, très très cool. Et alors donc les entrepreneurs bienveillantes, comme d'où ça vient tout ça, comment ça s'est construit?
Du hasard.
Du hasard, alors.
Du hasard, en fait, comment ça est arrivé, moi j'avais effectivement une petite communauté sympa sur Instagram qui commençait à voir le jour, et donc beaucoup de femmes et beaucoup de freelance, d'entrepreneurs. Et bien sûr qu'il y avait cette fibre écolo, en tout cas éthique, à se demander, je parle d'écologie toujours au sens un peu large du terme.
Ouais.
C'est vraiment, même l'écologie de soi, c'est au sens un peu philosophique du terme, de faire mieux, du bon sens, quoi. Camille pourrait le dire, c'est du bon sens, en fait. Voilà, je suis totalement fan de cette idée-là.
Ouais.
Et bref, donc je me suis dit, j'arrête pas de les connecter les unes avec les autres parce que elles ont des fois des projets à porter ensemble. Il y en a qui peuvent bosser ensemble, il y en a qui peuvent s'aider. Et en fait, ça me prenait du temps. Et je me suis dit, bah, je vais faire un groupe, en fait, Facebook, j'ai pas de groupe. Au début, je voulais faire un groupe sur l'écologie digitale. Et en fait, non, c'est celui-là qui a été pondu. Et 15 jours après, quelqu'un d'autre, que j'adore d'ailleurs, a fait un groupe sur l'écologie digitale.
Okay,
mais ça, enfin, ça en était pas parlé, ouais, tu vois. Ouais. Je me dis, bon, c'est génial. Tout le monde a son petit truc, tu vois. Et donc, et en fait, j'ai fait un petit groupe Facebook... Je ne sais même pas si ça s'appelait les entrepreneurs bienveillants dès le début, je ne suis même pas sûre. Et j'ai mis 20-25 femmes freelance de mon entourage qui ont super bien matché et qui ont commencé à ajouter très très vite, en 2 mois ça s'est fait, hein. Elles ont commencé à ajouter des copines d'entrepreneurs freelance pareil qui étaient alignées sur les mêmes valeurs, écolo, sororité, bienveillance, tout ça.
Ouais.
Et en fait, le petit noyau s'est étendu et aujourd'hui on est 1600 ou 1700 je crois sur le groupe. Et donc ça, c'était, ouais, c'était il y a 2 ans. Attends, ça va hyper vite. Un peu plus de deux ans.
Ouais.
Et en fait, entre-temps, c'est vrai qu'on s'est posé la question. Donc, avec Charlotte et Laetitia qui m'ont aidé à structurer le noyau de base, en fait, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc, en fait, avec ça? Parce que si on se regroupe les unes les autres, c'est bien qu'il manque quelque chose. et en fait, cette population-là, c'est pas mal d'atypique, hein, cette population-là, effectivement, il manquait un réseau pro. Et même le mot, tu vois, en le disant, j'ai presque l'impression que c'est un gros mot, tu vois, c'est horrible, hein, mais j'ai toujours été confrontée à des réseaux pro assez, justement, marketing un peu froid, tu vois, et bizarrement encore plus sur des réseaux pro féminins où c'était extrêmement business, en fait, et du coup, je m'y retrouvais pas du tout. Et j'étais pas la seule. Donc on s'est dit, bah, on va faire un truc comme on a envie, en fait. On a une page blanche et on va se faire un programme qui nous fait plaisir. On va se retrouver entre nous. On va porter des projets solidaires. On va se faire des afterworks. On va faire un festival. On voulait faire un festival. Bon, il y a eu le Covid entre-temps, donc on n'a jamais pu le faire, en fait, jusqu'ici. Mais j'ai espoir que l'année prochaine, on puisse. avec des tables rondes, avec des... Enfin, voilà, tu vois, plein de choses comme ça. Et en fait, voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'on a fondé une association. Moi, j'avais jamais fondé d'association de toute ma vie, j'ai peur de l'administratif. Et non, ça s'est fait tranquillou et on était 3 et puis ensuite il y a 2 autres personnes qui sont arrivées, donc il y a Marine qui a fondé en plus elle un espace de coworking aussi à Bordeaux pour les mamans, enfin pour les parents, même.
Ouais.
Truc de dingue. Anne qui est coach aussi en conversion, développement perso, enfin l'un des esprits, je suis totalement fan. Donc du coup voilà, ça a été aussi des cerveaux et âmes complémentaires, tu vois, au projet. Du coup on est 5 dans le bureau aujourd'hui. Donc moi je suis toujours sur le papier en présidente. Mais en fait, il y a plein d'impulsions de tous les côtés. Et l'idée de base, c'est d'essaimer, en fait, au niveau des valeurs. Et de se dire que voilà, les filles à travers toute la France peuvent se retrouver autour de ça et s'organiser des rencontres. Donc là, moi, je suis un peu sous la vague de la rentrée toujours. J'arrive pas à m'en
comme
remettre.
Comme beaucoup, je crois que là, c'est impressionnant que c'est encore septembre.
C'était violent. Ouais, c'est ça. Moi, je me crois toujours en septembre. C'est ça, exactement. Retour de vacances violent.
C'est ça.
Mais dès que je peux, je veux le faire là pour la fin d'année pour que... début d'année prochaine, elles aient toutes un kit, en fait, un peu comme le fait, je sais pas si tu connais Make Sense, voilà, et qu'elles aient un kit, tu vois, en mode vraiment, on appelle ça open source, chacune, en fait, peut s'emparer du truc et organiser une rencontre, en fait, n'importe où en France, parce qu'on a la demande depuis le début. On a essayé de mettre en place un système d'ambassadrice, mais c'est pareil, c'est beaucoup de temps, en fait, gestion, et moi j'arrive à mes limites, en fait. J'ai plus de temps dispo entre les enfants et tout, c'est horrible, et je déteste ça, mais là je suis vraiment sur, je sens, voilà, le moment où allez, faut lâcher le truc, et du coup c'est ce qu'on veut faire, quoi. On rêve de ça, et donc voilà, il y a plein de projets avec les bienveillantes. On porte des projets solidaires aussi, ça c'était le truc de base, de se dire on fait un réseau pro. Mais comme on se retrouve pas toutes forcément sur des projets pleins de sens au niveau de nos clients, on a aussi besoin de se faire du bien, on va dire, au mental ou au cœur, tu vois, je sais pas comment dire, et de donner un sens, en fait, à nos journées. Et aider des projets comme Sam, de Chloé, des trucs comme ça, tu vois,
l'expérience dont tu parlais tout à l'heure aussi,
voilà, ça, exactement, ça a du sens. On va refaire une campagne de visibilité pour la SPA, donc c'est du bénévolat, tu vois, tout ça. On a fait un truc avec Surfrider, c'était notre 3e coworking ramassage de déchets à la plage. C'est des petites actions, tu vois, symboliques, mais qui essaiment et qui surtout montrent aux autres peut-être aussi que, bah, en fait, c'est super accessible, quoi, et que tu peux faire bien, et voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'essaimer, quoi, de se faire plaisir avec le réseau. Donc voilà comment c'est arrivé, tu sais tout.
Trop cool, et bravo. Et pourquoi uniquement sororité, alors? Parce que pour des gens comme moi, par exemple, ça pourrait être frustrant de se dire on peut pas intégrer, mais alors pourquoi vous êtes centrée
On est super ouverte sur les hommes, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, non, on en a
moi,
fait,
mais
ouais,
je
bien
dire,
sûr.
Mais j'ai... parce que tu vois, c'est dans, ouais. le, dans le partage de, des valeurs bien qui sûr. Sont... Alors, après, je comprends, mais, j'ai fait... J'ai...
On va faire intervenir, hein, d'ailleurs. Là, tu vois, je crois qu'il s'appelle Tanguy de Surfrider. Il va venir à notre after-work de fin d'année.
Okay.
La dernière fois, c'était David aussi, tu vois, qui était venu à after-work. On a des mentors comme ça qui nous hébergent aussi nos, nos after-work. Donc, au final, ils sont toujours là, tu vois. C'est nos alliés, entre guillemets.
Ouais.
Mais pourquoi... Et je rêve que quelqu'un fonde les bienveillants. Les entrepreneurs bienveillants, tu vois, je serais trop...
Ça n'existe pas, déjà.
Non, ça n'existe pas. Ah, si, il y a un truc, j'étais approchée par... c'est où, je crois que c'est à Toulouse ou je sais plus quoi. Si, il y a un truc qui c'est. Ah, c'est pas exactement la même, le même pitch, entre guillemets, tu vois, le même truc de base. Ouais. J'ai pas le même ambition, mais l'ambition de base. Ouais. Mais oui, si, si, bien
alors,
sûr.
Alors, moi, ça me plaira pas non plus d'avoir un truc avec des mecs, donc
mais,
enfin, tu vois, il faut
en
pour
fait,
moi, il
faut. Ouais, bah, surtout, enfin, ce serait bizarre deux, parce quoi, mais, que mais... on est dans un contexte de société où on est plus
exactement.
En train de se dire, voilà,
exactement,
les femmes, tout ça. Et donc. En fait, pour l'avoir expérimenté, et c'est aussi ça l'idée de base des bienveillantes, pourquoi j'ai fondé ce groupe, non seulement pour que les filles se retrouvent entre elles, mais aussi pour faire une espèce de safe place. Alors, ça paraît bizarre de parler de non, ça, tu vois, en face de quelqu'un comme toi, qui est super bienveillant, ouvert et tout. Et je suis entourée d'hommes super, mais franchement, voilà. Mais je sais que, malgré tout, il y a aussi des sujets où t'as beau être l'homme le plus féministe, le plus bienveillant, le plus ouvert et renseigné sur ces sujets. Si t'es pas une femme, en fait, et que tu l'as pas expérimenté, et même nous, hein, des fois, on a besoin des lunettes des autres, en fait, parce qu'on on réalise pas qu'il y a des trucs un peu bizarres. Si t'es pas une femme, des fois, il y a des trucs que pas que tu peux pas comprendre, mais qui vont pas te sauter aux yeux. Et aussi, de l'autre côté, il y a des femmes, je le sais, je leur parle et je comprends, et ben elles ont besoin d'une safe place où il y a que des femmes. Et sinon, elles s'exprimeront pas. Parce que peut-être qu'elles ont eu des expériences traumatiques, hein, ça existe aussi, tu sais. En salariat aussi, moi je me rappelle certaines réunions hein, où effectivement t'as des hommes qui coupent la parole, dès que t'es la femme, si jamais t'arrives en robe, t'entends les gloussements ou des trucs comme ça, ou tu vois les regards et tout, et bah ouais, mais en fait, enfin je parle aussi, et du coup voilà, je comprends que certaines aient besoin de ça, et c'est vrai que bah déjà dans le groupe, t'as une parole qui est extrêmement libérée. Parce qu'il n'y a pas cette peur du jugement. Donc, en fait, ce groupe, c'est un peu comme si on avait posé un papier peint de bisounours. Je rigole, mais je t'avoue que ouais, c'est un peu ça quand même.
Ouais.
Et en se disant, voilà, ici, il n'y a aucune embrouille, en fait. Il n'y en a pas. Ce n'est pas un sujet, ça n'existe pas, ce n'est pas un concept. Et du coup, il y a vraiment un truc de bienveillance de fou qui règne dessus. Et c'est génial, en fait. C'est un peu irréel d'ailleurs, c'est pas le vrai monde, tu vois, mais ça fait du bien. Et c'est aussi ce qu'elles viennent chercher, tu vois, de l'entraide et tout, donc entre femmes, entrepreneurs forcément. Après, j'ai envie de te dire, la limite, c'est de se dire, c'est quoi une femme? Et je m'intéresse de plus en plus au sujet LGBT, etc. Parce que je me suis rendu compte en découvrant une personne justement... de Bordeaux, qui est top, et que avec qui je te connecterais peut-être, que j'étais pas du tout renseignée sur le sujet, en fait, et qu'on était très mal éduqués tous sur tout ça. Et du coup, je me dis, en fait, d'être estampillée femme entrepreneur, ça me pose un problème aujourd'hui, parce que ce serait plutôt qui se ressent femme, enfin, tu vois,
ou qu'est-ce que la féminité, mais comme
qu'est-ce
que la masculinité. Dans des débats qui sont bien plus longs, mais
on pourrait partir.
Qu'on se pose de plus en plus, mais qui sont passionnantes.
Ouais, et c'est nécessaire, en fait, parce que c'est comme les sujets de racisme, etc., de se dire, je vous vois, en fait, vous n'êtes pas invisible, et je vous vois, et vous existez, et en fait, le fait de mettre une étiquette, quelque chose comme ça, ou de vous donner de la visibilité, c'est de dire, vous existez, quoi. C'est
quelque soit votre façon d'exister.
Exactement, c'est ça. Et je sens qu'on pourrait partir sur tous les sujets. J'ose plus parler du coup. C'est excellent.
Non, on pourrait. C'est un sujet passionnant, quoi. Mais
c'est passionnant. C'est vraiment passionnant.
Non, mais pour le coup, je comprends effectivement ce côté. Bienveillant, ça, d'accord, mais que forcément, on n'a pas non plus le même rapport, et je peux comprendre complètement.
C'est ça. Et c'est pas du tout contre les hommes, parce que pour le coup, on veut en faire intervenir plein, tu vois, sur des conférences, des trucs comme ça, des tables rondes et tout, et non, c'est les meilleurs alliés. Mais c'est vrai qu'il y a besoin de cette safe place aussi.
Il y a un passé, un vécu qui est là aussi, quoi. Donc,
exactement, et qu'on prend en compte.
Malheureusement, on peut pas. On a un claquement de doigts, faire changer tout
ça. Tout à fait.
Ça va venir petit à petit.
Ouais.
Et si, on va parler un peu d'atypicité alors.
Yes.
D'où, à quel moment, donc on va parler donc. HPI, hypersensibilité, lèvres, voilà, on peut employer plein de termes.
Tu peux parler
aussi. Oui, je pourrais, mais c'est moi qui pose la question.
J'adore ça.
Non, j'ai le droit, parfois, je réponds aussi aux questions qu'on me pose. Mais non, est-ce que, à quel moment tu as découvert ça pour le coup? Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose... Déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en parler? Et c'est pas quelque chose qu'on, une fois qu'on l'est ou qu'on le sait, on ne sait pas forcément.
Je suis pas au bout de mon chemin.
Déjà, effectivement, c'est un chemin aussi, je pense, sans fin. Mais à quel moment tu as compris que tu étais atypique? Et si tu peux nous définir ce que c'est qu'être atypique?
Oui, c'est ça.
Là aussi, une définition pour ça.
Oui, c'est compliqué. C'est hyper complexe à définir parce qu'en fait... atypique, si tu veux, c'est vrai que je pense que ça... Est-ce que c'est un peu subjectif aussi, peut-être? Je sais pas. En tout cas, atypique, forcément, c'est quelque chose qui n'est pas totalement dans la norme. Mm-hmm. Il semblerait on ait un mode de fonctionnement qui soit pas celui, 80% des gens. Ouais. Et être atypique, en fait, on peut mettre beaucoup, beaucoup de choses dedans. Mais on va dire, on va dire que c'est... tu es en minorité, en fait, dans une société qui n'est pas faite normalement, organisée pour les gens qui pensent comme toi ou qui sont comme toi, qui ressentent comme toi.
Ouais.
Et moi, comment j'ai mis le doigt dessus, alors ça s'est fait vraiment plusieurs phases. Et au final, c'est pas si vieux que ça. C'est ça qui est fou. C'est que c'est venu aussi beaucoup avec l'entrepreneuriat, même si après... j'ai reposé un œil sur, forcément, sur ma vie et sur des rencontres et des choses qu'on m'avait mis entre les mains, des choses qu'on m'avait envoyées et tout. Et où j'avais balayé ça en me disant, mais on se moque de moi. Je comprenais pas. Ou je me disais, mais non, il y a un problème.
Ouais.
Pas compris. Et en fait, c'était... Donc, je venais de me relancer, je crois. Est-ce que je m'étais déjà relancée? C'était au tout début là, de ma seconde aventure entrepreneuriale, du coup, donc 2018.
Ouais.
J'avais commencé à avoir pas mal de freelances autour de moi, et dont une qui l'était, forcément, et qui avait un blog, pas forcément sur le sujet, mais sur le développement personnel. Et elle avait fait un article de blog sur la pensée en arborescence. et je ne connaissais pas. Et là, j'ai lu ça. Je l'ai relu, je me suis dit, mais attends. Je me suis dit, attends. Pourquoi on ne m'a pas parlé de ça avant? C'est un truc de dingue. Donc, j'ai fait un peu une chute de 10 étages. Là, je me suis dit, attends, c'est pas possible. C'est ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Je me suis dit, bon, c'est pas pour se dédouaner, tu vois, de plein de choses et tout. Mais pour le coup, c'était vraiment la sensation que j'avais.
Ouais.
Là, je me suis dit, ça explique plein de choses. Ça explique plein de choses. Donc, j'ai commencé à creuser un petit peu.
Mm-hmm.
Mais j'ai laissé passer, allez, peut-être un mois entre-temps. Après, j'ai repris des lectures qu'on m'avait conseillées. Donc, du genre des lectures de...
Du style « Je pense trop
». Ouais,
par exemple.
J'allais dire, donc voilà. Exactement, donc Christelle Petit-Collin, « Je pense trop », « Comment canaliser ses montagnes envahissantes ». Mm-hmm. Donc ça, c'est je pense celui qui m'a subjuguée. On va dire que je suis passée par plusieurs phases. Pareil, je l'ai lu.
Mm-hmm.
Je me suis dit... première réaction, je me suis dit « C'est bien ». Ça fait du bien de lire ça, mais tout le monde est comme ça. Je comprends pas.
Mm-hmm.
Tout le monde est comme ça. Donc, je l'ai mis entre les mains d'autres personnes, dont mon mari. J'ai dit, vas-y, lis-le et dis-moi ce que t'en penses. Et il a lu un petit peu, moitié. Il me dit, alors, tu t'y retrouves aussi. Je fais, tout le monde est comme ça. Il me dit, non, pas du tout. Il dit, non, pas du tout. Et il me dit, mais par contre, ouais, je te retrouve. Il dit, tu coches la plupart des cases quand même. Je dis, attends, il y a un problème. Je fais, c'est quoi ce truc énorme? J'ai très, très peur de l'effet Barnum à ce moment-là, qui est l'effet Barnum, c'est... De se retrouver dans, ça peut être une étude, dans une maladie, dans, ou quelque chose de positif. En général, c'est quelque chose de positif qui explique des choses.
Mm-hmm.
Et là, c'était le cas. Et parce qu'on a envie, mais il n'y a pas de validation derrière, psychologique ou par un médecin ou par tout un, voilà, on va dire l'organisme qui est censé valider ça. Donc là, j'ai très peur de l'effet Barnum à ce moment-là, parce que, donc, deuxième phase, je me dis, oh mon Dieu, en fait, c'est ma vie. C'est horrible, pourquoi on ne me l'a jamais dit? Pourquoi personne ne m'en a parlé? Pourquoi on m'a laissé me dépatouiller toute seule comme ça? Pourquoi je me suis toujours sentie atypique, un peu décalée, un peu dans ma tête, un peu avec un masque, en fait, tout simplement. Et si l'entrepreneuriat, c'est magique aujourd'hui, c'est parce que, bon, déjà de découvrir ça, je vais réexpliquer après le cheminement, mais déjà de découvrir ça, c'est un soulagement où tu te dis, bon, je suis pas seule. Je suis pas si bizarre, c'est quelque chose de différent, mais c'est pas bizarre. Alors que c'est le sentiment, sincèrement, moi, que j'avais depuis toujours. Après, c'est un truc, hein. J'aurais tellemment aimé que tu y aies.
Je peux interagir, il n'y a pas de
Je veux pas te forcer.
Tu j'en parle de temps en temps.
Mais c'est tellement passionnant comme sujet. Et je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de gens, en fait, d'oser en parler. Ouais. Et moi, je me suis pas sentie bien dans mes pompes avant un sacré moment. Et ça, c'est un sacré élément déclencheur qui m'a permis de souffler et de me dire waouh, ok, en fait, j'ai le droit d'être moi, quoi. Et si des fois je suis à côté alors que je comprends pas ça, je le fais super bien et tout le monde dit ah, mais ça, comment tu fais? Alors que ça, je suis incapable et je suis vraiment une grosse bille alors que c'est censé être facile, bah, c'est peut-être aussi un peu pour ça.
bien sûr. Voilà. Enfin, pour te partager, pour pas te laisser seul dans les explications, alors je vais partager un peu.
J'ai envie.
Non, mais quand j'ai découvert moi ça aussi, pour le coup, c'était assez récent, c'était en 2019.
Ouais, d'accord.
Par de la thérapie, enfin, donc j'ai fait de la thérapie, etc., parce que ça n'allait pas. J'avais une thérapeute pendant un an dans les Yvelines, d'où je viens, et après je suis arrivé à Bordeaux. Et au bout de la deuxième séance, elle me regarde, elle fait « Bon, par contre, Théo, faut que je vous dise quelque chose, ça vous parle atypique et zébré et tout ?» Je dis « Non ». Et elle m'a fait dire « Donc, je pense trop, pour le coup. » Et en le disant, j'étais là « Putain, mais c'est moi, en fait. »
C'est hallucinant.
Je trouvais ça génial, pour le coup. Ouais. Et la libération, et dans ce que tu dis, c'est que en lisant ça, bon, parce que je venais de passer par une période très compliquée, j'avais l'impression que pendant 26 ans, je ne savais pas qui j'étais. Enfin, et je comprenais ce décalage, en fait, énorme entre celui que j'étais en société et ce que je pouvais ressentir à l'intérieur. Et tu parles de masque, mais c'est exactement ça, quoi.
T'as un faux self.
T'es là, exactement. Et en fait, en découvrant ça, petit à petit, tu prends le masque et tu le décales au fur et à mesure. Et bon, bah, c'est là qu'on se sent... Enfin bon, moi, les personnes qui te connaissent depuis quelques années voient tout ce que je fais aujourd'hui. Bon, on comprend que le masque commence à bien s'enlever.
Mais bien sûr.
Et pour laisser
mais
de la place. Ouais, c'est exactement ça.
C'est magnifique.
Donc, c'est assez fou pour le coup. Mais c'est vrai que c'est.
Mais c'est sublime du coup. Ouais, parce non, que mais tu complètement. Vois, le message. Mais c'est. Moi, j'ai peut-être utilisé un mot fort, mais c'est un message d'espoir aussi, tu vois, qu'on délivre là aux personnes qui écoutent ça et qui peut-être aussi sont concernées et ne le savent pas.
Ouais.
Faut lire ce bouquin. Faut se renseigner. Parce que ça change tout, quoi. Ça change tout et à partir du moment où vous autorisez à être vous-même, mais votre vie change. Oh là là, mais déjà vous avez des vraies relations avec les autres, avec des gens, on va dire, avec qui ça a du sens de se connecter. Exactement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis en disant ça a du sens de se connecter. C'est du tri, hein, c'est du tri positif, quoi. Tu te connectes avec des gens avec qui ça a du sens, ça a de la valeur et tout, et ça. Et en général, c'est souvent de très, très belles rencontres et c'est très fort et tout. Et c'est des liens qui peuvent durer très longtemps, toujours. Mais c'est sûr que tout ce qui va être superficiel et tout, ça sort de la vie. Parce qu'on n'a plus envie de s'embarrasser de ça. On comprend que c'est pas ça qui va nous aider à nous épanouir. Et c'est pas avec ça qu'on va construire quelque chose. Et on est plutôt des bâtisseurs. Même si ça bouge tout le temps. ça change tout le temps. Il y a plein, c'est tout le temps en mouvement et tout. Très, très rapide, plein d'idées, tout ça. Mais c'est plutôt l'idée.
Je mets juste un bémol au cas où. Parce que si jamais on se sent pas forcément bien dans ses baskets, on n'est pas forcément atypique non plus.
Non,
je mets quand même
un
bémol. C'est pas parce que ça va pas qu'on est atypique et qu'on va le décorer.
Oui, tout à fait.
Au cas où. Enfin, on va pas rentrer dans la thérapie complètement,
bien sûr.
Mais au cas où, je mets un petit bémol là-dessus.
Mais c'est sûr que, et du coup, donc ça, après, bien sûr, il y a eu aussi, tout s'est enchaîné très vite, en fait, après le fait d'en parler un peu. J'avais des psys dans mon entourage, très vite m'ont dit « Ah bon, mais tu le savais pas ?»« Ah, ok !»« Mais si, si, et tout !» Puis du coup, qui m'ont remis d'autres bouquins dans les mains, d'autres machins. J'étais « Oh mon Dieu, d'accord !» Donc là, après, tu creuses, puis après, tu... Alors, j'ai eu toute ma période aussi, pendant des mois, où je n'ai lu que des trucs comme ça. Et là, j'en suis un petit peu revenue, entre guillemets, dans le sens où, je te disais, j'étais au Forum des entrepreneurs éco-responsables et c'était magique de faire cette table ronde sur l'entrepreneuriat typique parce que tu te sens en famille et c'est hyper agréable et tu parles le même langage et tout, c'est trop chouette. Mais à un moment, le fait de lire beaucoup ça, j'ai des phases un peu monomaniaques, j'étais à fond là-dessus, c'est tellement passionnant que du coup, je voyais presque que à travers ça. Et enfin, pas que, mais disons que le prisme, tu vois, je voyais beaucoup ça. Et je me suis dit, non mais attends, faut que t'arrêtes là, Céline, parce que tu t'es presque en train de pas te cataloguer les gens, c'était pas le cas, mais je savais que c'était présent et je ne voulais plus avoir à chaque fois cette vision ou cette pensée, tu vois, de me demander tout le temps dans ma tête, attends, est-ce que cette personne en est-ce que machin, est-ce que... Parce qu'à force de connaître par cœur, tu vois, ce fonctionnement et de s'explorer soi-même, de se dire, est-ce qu'il y a un écho en face, est-ce que... Et voilà, et du coup... On va dire, pour limiter un peu le côté obsessionnel de la chose, j'essaie de m'en détacher un petit peu. Néanmoins, il y a ce côté hypersensibilité qui, au final, moi, c'est par ça vraiment que j'ai commencé à creuser le truc. Ce côté hypersensible qui est extrêmement présent chez moi. Bah, je peux pas, c'est pas comme si je pouvais vivre sans, c'est tout le temps là. Et donc, du coup, forcément, bah, si, si, il faut que je le travaille. Je le travaille et j'essaye de le travailler avec les autres aussi pour eux. Alors, je ne suis ni coach, ni thérapeute, ni quoi que ce soit, mais je pense que toutes les personnes qui sont concernées par ce mode de fonctionnement sont hyper attirées par ces métiers d'accompagnement, pour aider les autres, justement. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort aussi qui vibre, ça paraît.
Je vois de quoi tu parles.
Vous n'avez pas l'image, mais... mais c'est ça, voilà. Et du coup, forcément, ça aussi, c'est quelque chose qui m'attire énormément en disant, mais j'ai envie d'aider les autres à se révéler, à se comprendre. Et plus tu te connais toi-même, et plus tu peux aider les autres aussi à se révéler pareil. Donc,
donc c'est toujours... Pour le coup, pardon de te couper, mais quand... moi, je me permets de le faire, parce que je pense que tu as vécu la même chose. Quand tu découvres ton atypicité, tu découvres ta mission de vie aussi, en parallèle, même si elle se construit bien évidemment, et c'est un cheminement qui n'est quasiment sans fin, je pense, c'est ça qui est intéressant. Il y en a qui ne le commencent jamais, ce chemin, donc voilà. Mais donc tu découvres ta mission de vie, et pour être totalement aligné là aussi avec, avec ce que,
tout
ce que tu fais, quoi.
Ouais, c'est ça. Tout se met un peu en place, en fait. C'est vrai que c'est hyper fort, hein, comme révélation. Enfin, je sais pas trop comment toi tu l'as vécu, mais moi je t'ai dit. Hein,
c'est violent, pas forcément violent. Dans le mauvais sens du terme, mais c'est violent.
Non, c'est ça. Mais après, t'as plusieurs émotions presque superposées, tu vois, les unes aux autres qui sont extrêmement fortes. Et tu. Ouais, en fonction des jours, du coup, c'est l'une ou l'autre qui va prendre le dessus. Et puis, ouais, et puis tu t'interroges aussi en te disant, mais vraiment, quoi, pourquoi on m'en a pas parlé, en fait? Tu te dis, mais mince, c'est. Les enfants, moi, je t'avoue que c'est aussi par les enfants, en fait. Si c'était que moi, peut-être que j'aurais pas osé creuser parce que je me serais dit, tu délires. Si j'aurais pas lu le livre. Je me serais dit, non, ça te concerne pas, c'est pas possible et tout. Mais le fait d'avoir ma fille, donc qui à l'époque, elle avait 6 ans, ouais, un peu moins même. Je la voyais, petite hypersensible, plus, tout le temps en train de lire, tout le temps. Et très, très curieuse, très, très, voilà, je la voyais parler, je me revoyais petite, et je me disais, bon, s'il y a quelque chose, je sais qu'à mon époque, c'était pas trop, on faisait pas trop ça, tu vois, on en parlait pas, c'était pas très, très connu. Ouais. Je me dis, moi, j'ai pas d'excuses, en fait, Internet existe, c'est très accessible, tout ça, les bouquins, machin, j'ai un réseau, enfin, je suis peu, voilà. Et je me suis dit, bon, s'il y a quelque chose, il faut que je le sache. Et du coup, je suis allée explorer ça. Alors, ma fille, je la laisse tranquille pour l'instant. Mon fils aussi. Je les laisse tranquilles, mais je surveille.
Et c'est ce qui se passe, quoi. Enfin, moi, tu comprends.
Voilà,
et...
exactement. C'est juste ce qui compte. Et tant qu'ils sont bien, il n'y a pas de... Voilà, je n'ai même pas besoin de nommer quoi que ce soit. Elle sait qu'elle est très sensible. Ouais. Et voilà. Mais c'est un atout. J'ai dit que son petit cœur et ses émotions, ouais, c'était magnifique.
Ouais.
On appréhende ça beaucoup, les émotions. C'est bien. On en parle de plus en plus, ça, tu vois, à l'école et tout. Cool. Nous, on n'en parlait pas trop. Tu n'as pas d'éducation émotionnelle.
Ouais.
Et quand tu as des émotions gigantesques et qui sont aussi extrêmement positives, extrêmement négatives, et que ça varie très vite, et que des fois ça n'a pas de sens pour la personne en face. Non, mais en fait, je n'arrive pas à le gérer. voilà, c'est bien d'avoir des clés.
Ouais.
Et du coup, c'est plutôt ça que je vais essayer de lui mettre entre les mains, et à son petit frère aussi.
Yes.
Mais c'est vrai que le fait de le savoir, c'est top. C'est chouette. Donc c'est plus ouais, c'est plus par les enfants, mais je pense que là beaucoup peut-être ouais, des personnes qui sont peut-être un peu plus âgées, on va dire qui ont 35-40, je pense que c'est arrivé par les enfants. Parce que souvent quand ils sont détectés, les petits après, les petits leur disent « Ouais, et vous ?»
et vous, comment ça va?
Ben, c'est ça. Et puis souvent voilà, ma fille, c'était ça aussi. Elle a eu un petit passage claustrophobie, donc j'ai emmené faire quelques séances. Et j'ai bien vu que le gars, il ne m'a pas parlé de test ou quoi. Mais puis, c'est hors de question. Tu vois, je veux vraiment qu'on la laisse tranquille. Pour l'instant, il n'y a pas de raison. Mais il m'a bien mis le doigt dessus, tu vois. J'étais, oui, je sais. Ouais, c'est rigolo. Mais, Et puis souvent, tu détectes, hein, de ce que je crois comprendre, c'est que tu détectes aussi ceux autour de toi. C'est que tu te rends compte, on parle du mot zèbre, et c'est pas pour rien, c'est que tu as des troupeaux. Et dans l'entrepreneuriat, c'est hyper flagrant, forcément. C'est des gens souvent qui sortent des cases, qui sont pas faits pour la hiérarchie, qui la comprennent pas. Bon, c'est un truc que j'ai jamais, tu vois, la hiérarchie aujourd'hui, enfin, c'est même pas une hiérarchie d'ailleurs, c'est du partage, du réseau, de l'échange, d'un lien qui se tisse, en fait, et bon, c'est la seule hiérarchie qui existe, tu vois, pour moi, qui est la hiérarchie du bon sens. Et ça, pour ça, en entreprise, j'ai toujours eu beaucoup de mal, en fait, avec... cette idée de chef, de machin, de surchef, de truc. De dire, bah non, en fait, il y a un humain et un autre, et voilà, c'est tout. Le reste n'existe pas. Et, et bien sûr que du coup, il y a plein de gens bah, comme nous qui lancent leur projet de cœur, en fait, et qui ne peuvent s'épanouir qu'ici, et qui ont besoin de cette liberté. Alors, je ne sais pas si c'est un truc qui est aussi très présent chez toi, mais... extrêmement présent, mais hyper, hyper puissant, et de pouvoir avoir, s'offrir ce luxe aussi de... côtoyer au quotidien les personnes que tu as envie de côtoyer, que ce soit tes collaborateurs, que ce soit ton réseau, que ce soit tes clients, et de choisir des projets mais bourrés de sens, parce que sinon, il ne se passera rien. Ouais, sinon, tu n'as plus de moteur.
Ouais, une fois que tu es dans le sens et que tu es dans ton droit chemin,
Bah ouais. Des choses extraordinaires. Ah bah là, tu carbures. Ce qui est... petit warning, hein, d'ailleurs. Ce qui peut être dangereux. Et du coup, tiens, bah, je reviens sur une autre branche où on parlait de agence Bel Ego. Donc, du coup, ça fonctionnait bien et tout. Et juste avant le Covid, j'ai frôlé, je pense, le burn-out. Alors, j'en ai jamais fait en vrai. Mais là, je l'avais pas mal frôlé. Et en fait, le Covid, je pense, m'a évité sûrement le burn-out quelque part. Donc, pour moi, c'était peut-être un peu salvateur. Parce que je pense que les gens comme nous qui sont vraiment hyper passionné, on a tendance à se donner à 4000% et plus que ça, et à, bien sûr on compte pas les heures, hein, les entrepreneurs de toute façon il n'y a pas de secret, on bosse toujours beaucoup plus et tout, on se laisse emporter par tous nos projets, et puis on en a 10 milliards qui naissent tout le temps, tous les jours, il faut se couper des fois, il faut dire non ça je peux pas le lancer tout de suite, c'est des fois frustrant, mais bon, voilà.
C'est parti du jeu.
Donc, petit warning, c'est vrai que quand on est entrepreneur et qu'on a ce côté atypique, HPI, HPE, hypersensible, multipotentiel, on a envie de faire plein de choses, on le fait, mais il faut faire attention, il y a personne, on est son propre boss, donc il y a personne, et on, comme le disait Anaël Sorigna, tu vois, au forum, elle a quitté une start-up parce que elle faisait trop d'heures et tout, puis ça lui convenait pas, tout ça. Et en fait, quand elle s'est lancée en freelance, elle était un tyran, un patron tyrannique envers elle-même. Elle a jamais autant bossé de sa vie. Je pense qu'on est tous pareils, c'est qu'on a vite fait de partir comme des fusées. Mais attention, on est notre seul régulateur, donc c'est extrêmement compliqué de se dire non, mais là, stop, là je vais. Ouh, je sais même plus pourquoi, je me mets des mémos partout. Pardon. Et du coup, petit warning sur ça pour ne pas se laisser aller au burn-out, parce qu'on est vraiment une population à risque sur le sujet.
Complet.
Ça peut venir très, très, très vite. Ouais. Et on peut en faire plusieurs régulièrement. Je parlais encore avec quelqu'un hier, c'est le cas, quoi. C'est vraiment le cas.
Ouais, faut faire attention. Et tu parles d'Anaël, justement, et je garde en tête sa phrase, parce que épisode 5, donc c'était il y a un petit peu de temps qu'on avait enregistré, au tout début du pompon, et elle disait que son énergie, c'est ce qu'il y a de plus précieux.
Bien sûr.
Et moi, je me le dis souvent.
Tout à fait.
Il faut en prendre soin,
Et puis, on est aussi des éponges. Alors après, on peut mettre beaucoup de choses, hein. Les atypiques, tu vois, c'est déjà plein de choses, encore une fois, c'est tout un spectre, on peut être chacun, il y a quand même chacun ses sensibilités, puis après un humain, c'est tellement de choses différentes, du vécu, une personnalité, des aspirations, enfin il y a énormément de choses, donc tous différents, personne n'est pareil bien sûr, néanmoins il y a quand même des grosses tendances, des grosses caractéristiques, et du coup tu me parlais juste avant
pour l'énergie, en prendre soin.
Sur l'énergie, faut vraiment faire attention à son énergie, et c'est vrai que quand on est hyper empathique, il faut pas se laisser absorber en fait par les projets des autres, et ça c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Il faut protéger son énergie dans le sens où faut pas hésiter à se créer des moments de ressources, et ça aussi tu vois, on va parler que d'un analyse, mais on parlait de la même chose, enfin tu vois, c'est ça qui était génial avec ce moment, c'est que elle expliquait qu'elle avait effectivement des moments où elle allait promener son chien. Et avant elle l'optimisait, mais j'ai fait pareil, j'allais promener mes chiens, je prenais mon portable en me disant là je vais répondre à mes trucs, je vais faire des vocaux, je vais machin et tout, c'est pour faire de la productivité, optimiser, et voilà, tu optimises et tout, et même réflexion qu'elle, à un moment je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait, je suis au bord d'un lac sublime, je suis avec mes petits loulous et tout, je profite de rien, j'ai mon truc qui est connecté machin, greffé dans la main, et en fait non, tu le poses et tu voilà, et c'est extrêmement compliqué parce que t'as tout le temps envie, t'as tout le temps, mais néanmoins tu es obligé d'avoir ces moments de ressources pour te reconnecter à vraiment à ce que tu as en fait, dans le bide tout simplement, et à tes aspirations à toi, parce que On a tendance à se connecter avec plein de gens, surtout aujourd'hui avec tous les outils, voilà, c'est en permanence. Et on a vite fait aussi d'être en hyperstimulation, d'être enthousiasmé pour les projets des autres, pour la vie des autres, pour leur bonheur, pour voilà, absorber leur peine aussi, tout ça. Mais il faut déjà s'occuper de son énergie à c'est soi et veiller à ce qu'on soit OK avec notre projet à nous, en fait, notre mission, chacun l'appelle comme il veut. Mais ça, je sais que c'est quelque chose, moi, j'ai vite fait aussi, me faire happer par les projets des autres, forcément. Clients très différents, souvent passionnés, des freelances, des machins, tout ça, tu as vite fait de te laisser embarquer en fait. Mais retour à soi, très important. Très important. Attention à l'éponge émotionnelle.
On est bien d'accord. J'ai une question qui me vient en tête. Est-ce qu'on peut entreprendre tout en étant bienveillant attends, je vais aller jusqu'au bout. Entreprendre en étant bienveillant, éthique et réussir.
Alors, c'est beaucoup de mots, beaucoup de concepts, et en fait, chacun peut mettre la définition qu'il veut derrière, même si t'en as une qui est officielle. Déjà, que veut dire pour toi réussir, en fait ?
Oui, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière la réussite, effectivement ? Alors, je ne vais pas donner ma définition, mais je dirais peut-être celle de la société.
Ouais.
Oui, on va prendre celle-là. De la mienne. Donc, la réussite pour la société, je ne sais pas, c'est un mélange d'être connu et être riche. C'est peut-être ça, réussir.
Le standard aujourd'hui, malheureusement, c'est ça, en fait. Et tu vois, c'est vraiment quelque chose que moi, je réinterroge, je m'interroge sur ça. Mm-hmm. Et je ne suis pas la seule, on est plein à s'interroger là-dessus, et c'est génial. parce qu'il faut vraiment, et ça aussi, pour moi, c'est de l'écologie, de se dire... c'est quoi réussir, en fait, effectivement? Est-ce que quand tu es entrepreneur, réussir, c'est faire tant de CA, avoir tant d'employés,
bosser... lever tant de fonds?
Ouais, c'est ça, voilà. Alors ça, tu vois, typiquement, j'ai de plus en plus de mal, d'ailleurs, à travailler avec des startups, je t'avoue que c'est... j'ai pas peur de le dire, parce que c'est vrai, en fait. Les clients, on va dire, que j'affectionne le plus, qui me passionnent le plus, ça va être les artistes et les PME. Parce que c'est extrêmement humain, en fait. Ouais. C'est des échelles humaines. Et c'est humain dans le schéma et le modèle, etc. Et la vision. Je dirais ambition, mais voilà. Après, au-delà, et je dis pas, il y a plein de projets magnifiques. J'ai autour de moi des gens qui ont des startups top et tout, ultra nécessaires. Mais j'ai beaucoup de mal avec ça et je m'interroge énormément. Je me dis, est-ce que ça, c'est ce qui aidera à construire le monde de demain? Est-ce que l'humain ne voit pas toujours un peu trop grand? Est-ce qu'il n'y a pas un modèle vraiment entrepreneurial à réinventer? Est-ce qu'on fait avec les bienveillantes? C'est un truc en mode artisanal, je veux dire, on n'est pas monétisé, on ne veut pas l'être, mais on propose une vision très collaborative, et c'est ce qui se passe avec nous, les freelances, tu vois, donc c'est pour ça que là, le fait de bosser un peu en mode collectif avec, avec d'autres freelances, c'est génial, parce que c'est très différent. Je ne sais pas si un jour j'aurai une salariée ou quoi, j'aimerais bien, tu vois, je me dis, ouais, pourquoi pas et tout, mais ce n'est pas l'ambition. C'est plus effectivement de mettre beaucoup d'humain, beaucoup de sens dans tout ça, d'essayer de diffuser des idées. Pour moi, ça va être la mesure de l'impact, en fait, que tu vas avoir. Alors, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, donc tu as une espèce de marketing d'influence, de communication d'influence qui existe. Tu as des médias, un podcast, c'est un outil incroyable pour propager des idées, des mouvements. C'est des outils fédérateurs aussi. Tu peux porter des causes et... Moi, j'aime beaucoup pouvoir le faire sur les réseaux sociaux. C'est un peu là où je me retrouve aussi, malgré tout le mal qu'on peut dire de ces plateformes, mais à juste titre.
C'est des
outils.
C'est comme tout, c'est comme comment
bien
l'utiliser.
Bien sûr, mais... exactement. C'est des outils, donc forcément, c'est comment on l'utilise qui va changer la donne. Et en fait, pour moi, oui, on peut être bienveillant, éthique et réussir, mais tout dépend de ta notion de la réussite, parce que à mon sens, si on veut tous réussir, je crois que c'est une citation d'ailleurs de, je sais plus si c'est un acteur, mince, attends. On connaît que lui. Ah, on connaît que lui, c'est un gros hypersensible en plus. Je l'ai en plus.
Français ?
Ouais. Dupontel.
On
fait
un jeu, c'est
gelé. C'est Albert Dupontel.
Okay, ouais,
Albert Dupontel,
bien.
Un gros hypersensible. Ah, ouais. J'adore ce monsieur. Et dans une interview, en fait, j'avais chopé la phrase, mais il disait en substance effectivement, la société n'avait pas du tout besoin de personnes qui voulaient avoir des grosses boîtes ou qui voulaient l'idée tel truc ou qui voulaient lancer tel projet ou machin ou construire ça. Non, ça, on s'en fout, en fait. C'est juste des leaders. leaders inspirants qui vont créer des mouvements, qui vont aider les autres, qui vont porter des causes qui ont du sens, qui vont créer du lien entre les gens, qui vont... Et c'est pas des paroles de bisounours, parce qu'en fait, à mon avis, je suis pas la seule à le penser. C'est la seule solution, en fait. Donc je pense que là, on n'a plus trop le choix, en fait. L'entrepreneuriat, c'est aussi un super outil. Mmh. C'est un outil formidable pour faire plein de choses. Mais la réussite en termes, tu vois, de croissance, comme on l'entend jusqu'ici, enfin voilà, le terme de la société, pour moi, c'est complètement faussé. En fait, là, on peut même plus jurer par ça. C'est pour ça que tout ce qui est levée de fonds et tout, je me dis, ouais, parce que après, les mecs et les nanas, moins de nanas d'ailleurs, qui lèvent des fonds. Mais
pour le coup, c'est ouais. Genre même 2 ou 3% de,
oui, c'est ça, je crois. T'as le...
J'exagère peut-être, mais
je crois que.
En termes de levée de fonds, grosse levée de fonds.
C'est peut-être un tout petit peu plus.
Un peu plus, mais en tout cas,
t'as le collectif de Céline Lazorte qui s'appelle We Are Sista. Super intéressant, qui est justement organisé pour déjà parler de ça, du fait que les femmes lèvent moins de fonds. Et elle, entrepreneur aguerrie et tout, et multi-levée de fonds, tout ça, elle connaît plein de gens. Du coup, elle se sert de cette influence et de ce réseau pour effectivement aider les nanas à lever des fonds. Donc, c'est top. Clair.
Déjà, entreprendre aussi, parce que pour le coup, j'ai découvert ça avec les WeDays qui viennent de se clôturer, là, avec les premières et la ruche. Big up à Christine et Nathalie. Et elle disait qu'effectivement, alors en Nouvelle-Aquitaine, c'est la région où il y a le plus de femmes entrepreneurs, et c'est que 30%.
Mais oui, c'est
fou, le plus gros score de France en termes de région, mais c'est que 30% de femmes.
Ah ouais, tous les...
C'est quand même un peu de travail, mais...
C'est ça, tous les 3-4 mois, je me remets le nez dedans, tu vois, j'essaie de trouver une étude justement sur le sujet par rapport aux bienveillantes, en fait. C'est vrai que fatalement, par rapport à ce projet-là, j'ai mis le nez sur des chiffres, j'ai lu plein de livres aussi, du coup, sur ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, oh là là, on est tellement à la ramasse. C'est comme quoi, voilà, il y a vraiment un vrai sujet. Mais donc, tu vois, et l'entrepreneuriat féminin et cet entrepreneuriat, on va dire, de bon sens, en fait, éthique, bienveillant, collaboratif, on peut l'appeler comme on veut. En tout cas, pour moi, c'est l'entrepreneuriat de demain, mais qu'il faut lancer aujourd'hui. c'est vraiment la croisée, parce que je me suis rendu compte en fondant les entrepreneurs bienveillantes que, et je ne suis pas forcément fan de ça, mais par le système éducatif, par la société, par plein de choses, les femmes, elles portent une espèce de care, en fait, en elles, de protection, de prendre soin. Et en fait, pas mal d'études le disent, c'est que quand t'as une femme à la tête d'un État, quand t'as une femme à la tête d'un conseil d'administration, en général, ça se passe plutôt bien pour les employés, pour les gens du pays. Il y a plein d'indicateurs qui montrent que au niveau des salaires, c'est plus égal. Au niveau des disparités de machin, pareil. Précarité, tout ça. Enfin, plein d'indicateurs, tu vois, qui sont sociaux, environnementaux et qui virent au vert, justement, à partir du moment où les femmes prennent la place. Et du coup, c'est terrible parce qu'on ne prend pas assez la place et on n'ose pas... c'est les chiffres qui le disent, hein, c'est pas une lubie du coup, mais c'est vrai, c'est terrible. On n'ose pas se positionner en experte. Alors, c'est des grosses généralités, mais du coup, les chiffres traduisent comme tel. Tu as une émission de radio, par exemple, typiquement, et la personne, elle va proposer à une femme de venir intervenir en tant qu'experte, tu peux être sûr que son syndrome de l'imposteur va parler à sa place et qu'elle va se dire je suis pas assez qualifiée, je le sens pas. Voilà, et que tu as un homme, et ça c'est valable aussi pour les jobs, tu vois, les offres d'emploi, tu as un homme qui va avoir peut-être 40% de la qualification, qui va dire bon, j'y vais. Et ça, c'est un peu aussi le truc d'entrepreneur, c'est de se dire à un moment, il faut que tu ailles, en fait. Tu n'auras jamais toutes les réponses, il faut que tu ailles, sinon tu n'y vas jamais. Et en plus, le truc va changer en cours de route, donc t'inquiète pas. et les femmes, elles ont, je le vois beaucoup avec les entrepreneurs bienveillants, on a un syndrome de l'imposteur extrêmement fort, qui est aussi présent, bien sûr, chez plein d'hommes, je le vois aussi, mais d'autant plus chez les femmes. Donc c'est énervant, parce que du coup, il faut qu'on fasse un gros boulot sur nous-mêmes. La société en a besoin. Mais c'est pour ça que, tu vois, je disais tout à l'heure, vous êtes aussi nos meilleurs alliés, parce que avoir un compagnon, avoir un frère, avoir un mentor, avoir un collègue ou tout ça qui t'encourage, qui va aussi peut-être temporiser des fois dans un environnement pas ultra friendly de base, et qui va peut-être aussi remettre à la place, sans forcément infantiliser qui que ce soit, tu vois, mais juste des fois temporiser un petit peu, ou alors s'adresser d'égal à égal, c'est juste ça, en fait, juste ça, montrer l'exemple, quoi, en fait. Ça peut être suffisant pour remettre quelqu'un qui a une attitude déplacée, tu vois, et qui fait que ben, la femme, au bout d'un moment, ben, elle va se renfermer et puis elle va dire « Ok, laisse tomber.
» Ouais, non, c'est clair. Ouais. Encore un peu de taf, mais on y arrive.
Ouais, il y a pas mal de boulot. Mais...
Et ça me fait penser, si j'écoute régulièrement un podcast qui s'appelle « Femmes puissantes »
ouais,
de Léa Salamé. J'adore. Voilà, je sais pas si tu connais. Ouais, j'invite tout le monde qui nous écoute à l'écouter parce que je le trouve génial.
Ouais, il est chouette.
J'adore l'écouter.
Il est chouette. Vraiment, ça fait super plaisir. Ouais. Ouais. Mais c'est des parcours. Alors là, pour le coup, il y a vraiment des femmes.
Ouais, tu as du Christiane Dobéra, Christine Lagarde, Yannick Camois, Marion
Cotillard,
Leïla Slimani.
Mais c'est génial. Et c'est bien parce que, tu vois, il faut des femmes comme ça qui ont pris leur place et qui, à un moment, y vont. Mais avec leur méthode à elles, tu vois. Parce que c'est Gisèle Halimi, tu vois, qui disait, une femme incroyable aussi, donc avocate qui est décédée, je crois, il y a 2 ans, qui a passé sa vie, en fait, à défendre la cause des femmes. Et elle disait, effectivement, qu'il faut que les femmes prennent le lead, en gros. En tout cas, prennent leur place, sans évincer les hommes, bien sûr, mais avec eux. Mais qu'il faut qu'elles le fassent à leur manière, en fait. Ouais. Parce que ce modèle patriarcal en place... ne correspond plus à la société qu'on veut créer et au monde là qu'on essaie de sauver en fait et c'est pas avec les méthodes d'hier en fait qu'on y arrivera donc les femmes elles ont cette espèce de care, elles ont cette espèce de truc collaboratif de partage là, je le vois avec les entrepreneurs d'ambiance, elles sont toutes en mode entraide en fait, dès que t'en as une qui pose une question elles sont, tu sais, il y a beaucoup moins cette espèce de truc de concurrence, de comparaison tout de suite et tout, de ces jeux-là. Bien sûr que ça existe, hein. Je sais pas. Mais l'entraide, on va dire, est beaucoup plus forte. Ça leur fait un bien fou aussi. Ouais, le fait de voir que voilà, l'autre aussi est porté, tout ça, hop, ça résonne, ça se renvoie la balle, tout ça. C'est une boucle vertueuse, en fait. Et ça, c'est un peu utopique, mais pour moi, c'est l'entrepreneuriat qu'on devrait créer, quoi.
Complètement.
Je sais pas si ça répond à ta question.
Si, c'est très bien.
Trop bien.
Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça?
Plein de choses. plein de choses. Multipassionnées. Qu'est-ce qui m'anime? C'est essayer de me dire... beaucoup l'humain, bien sûr. C'est vrai que moi, je me nourris... alors, à la fois, j'essaie de ne pas laisser m'emporter dans le projet des autres, par leurs émotions, tout ça. Et d'un autre côté, bien sûr, les humains me nourrissent et me donnent de l'espoir. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je vois des gens qui portent des projets magnifiques et plein de sens et qui bossent comme des fous, tu vois, pour le faire éclore et tout, et je me dis, c'est cool, ça vaut le coup, en fait, d'essayer de contribuer aussi. Et du coup, je pense que ça, ce lien humain et le fait de s'entraîner les uns les autres, de se sentir... comme une sorte de, je sais pas si on peut dire famille, ça fait un peu gnangnang, mais c'est un peu ce que je ressens, tu vois. C'est une espèce de communauté, en fait, généralisée, où tu dis, chaque époque a son combat. Nous, là, il faut qu'on se bouge pour aller vers ça. Et moi, tu vois, je te disais, je voulais faire... me penchais beaucoup plus sur tout ce qui était écologie digitale il y a un temps. Après, bon, du coup, mes journées n'ont que 24 heures. Il faut dormir aussi. Et déjà, je ne dors pas beaucoup, mais plus le temps. Mais c'était un vrai sujet. J'avais entendu un podcast, justement, c'était XX Génération. Trop bien aussi. Ouais. Et c'était Inès Leonarduzzi, donc en, pareil, 2018, qui parlait de ça. Elle était... précurseuse, je ne sais plus comment ça se...
Précurseuse.
Elle était en avance sur ça. Elle avait une boîte de conseils sur l'écologie digitale. Et en fait, là, on a l'impression que tout le monde en parle, mais je t'assure qu'il y a 2 ans, c'était pas le cas. Pas du tout. Et en fait, ça a été la grosse révélation. Je me suis dit, en fait, j'essaye de faire mieux. J'essaye de porter des trucs qui ont du sens à ma petite échelle. Mais si tout le monde fait des petites choses comme ça, c'est chouette. Et en fait, je suis une grosse pollueuse parce que mon métier, c'est juste la misère en termes de pollution digitale, parce que ça se voit pas. Et en fait, c'est des matériels qui détruisent la planète, c'est des câbles, c'est de l'énergie, c'est tout ça. Bref, chaque clic, en fait, génère une pollution. Et du coup, gros conflit à l'intérieur de moi en me disant, mais comment je vais faire? Donc, on a organisé des workshops sur l'écologie digitale. Et d'ailleurs, j'étais impressionnée de voir que le sujet parlait à des gens. un certain nombre de personnes atypiques, j'imagine. Tu vois, pour être concernée par ça, c'est que forcément, tu te poses des petites questions. Donc, c'était pas n'importe qui, c'était drôle. Mais on a trouvé des petites pistes et tout. Et déjà, ça donne un peu plus de sens. Et moi, je sais que... mon métier, je le vois que en évolution vers ça, en fait. Se dire, ok, faut être conscient de ce qui est. On est tous en contradiction permanente. C'est impossible d'être ultra propre. Ça n'existe pas. Mais tu peux faire mieux. Et tu peux initier des choses. Mais tiens, j'écoutais le podcast avec Shirley ce matin. Et c'est un merveilleux exemple. Tu vois, mon rêve, ce serait de faire... alors, dans mon métier... Mais de faire comme Shirley, elle, donc, qui crée des sites, eh ben, elle a fondé un template WordPress, je crois, qui s'appelle Neptune, et qui est le premier template WordPress. WordPress, c'est 30% du web, quand même. Et qui est un template éco-responsable. Ouais, c'est juste génial. Mmh. Et je me dis, voilà, l'entrepreneuriat, ça sert à ça, en fait, à inventer des solutions. Mmh. Et réussir, bah, tu vois, Shirley, pour moi, elle a réussi, quoi. Ouais. C'est top. Ça, c'est une belle illustration. Mmh. Donc, moi, si un jour, j'arrive à sortir le guide du community manager éco-responsable, c'est cool. Il y a plein de petites choses, mais il faut aller plus loin que ça, tu vois. Et tant que j'ai pas trouvé le truc vraiment puissant, je m'abstiens, mais voilà, mais moi, ce qui me motive, c'est de se dire, j'essaie de participer à ça, en fait. J'essaie à mon niveau. C'est l'image du colibri, tu vois, elle est un peu révolue aujourd'hui parce que on a tous compris que les petits gestes du quotidien, c'était insuffisant. Il fallait aller sur des grosses échelles. Enfin, ouais, il fallait vraiment se rassembler tout ça et faire des trucs à impact. Néanmoins, tout est lié quand même.
Ouais, c'est pour ça que quand tu l'as dit, j'étais pas complètement d'accord, même si je pense que t'es d'accord avec le fait que je sois pas d'accord. Mais dans le sens où des petits gestes, c'est ça, où t'achètes tes fringues, déjà c'est pas mal, où t'achètes ta bouffe, déjà c'est pas mal.
Bien sûr.
Tu te déplaces. Enfin, tu vois, exactement. C'est des petits gestes, mais tu cumules tout ça, ça commence à faire beaucoup.
Exactement. Essaye d'être cohérent. Déjà, ça te fait du bien. C'est quoi être heureux? C'est essayer de mettre en accord ce que tu ressens, ce que tu fais et ton discours. En fait, quand les trois sont en cohérence, normalement, t'es très bien. Ouais. Et tu vois, j'avais justement, pour les bienveillantes, j'avais parlé à la fondatrice de Edeni, je sais pas si tu connais.
Non.
Mais oh là là, elle est pas de Bordeaux du coup, elle est pas dans le podcast, mais tellement inspirante. Et en fait, elle expliquait, donc je posais la question justement de la Russie, du modèle, tout ça, pour me dire, mais elle vend en fait des programmes de formation à l'écologie en entreprise, aux particuliers. Mais c'est du bien commun, c'est de se dire, mais comment tu peux vendre ça alors que ça devrait être sponsorisé par l'État, tu vois, enfin, par nous tous.
Complètement,
C'est un truc qui a tellement du sens et tout, que comment tu fais pour vendre ça? Donc elle expliquait, bah ouais, que c'était compliqué. Et je lui dis, bah, comment tu fais parce que t'as 20 salariés? Bah, ils sont pas tous à temps plein. Il y en a qui ont à côté un emploi alimentaire qui leur convient bien, dans lequel voilà, ils ont aussi une vie sympa avec d'autres employés, tout ça. Ils ont un rythme tranquille. Il y en a qui ont décidé sciemment de travailler moins et qui du coup profitent de leur famille, voient leurs amis, au lieu de bosser comme des malades et en fait se retrouver le week-end à faire un peu la fête pour oublier et en fait enchaîner.
Pour repartir encore plus fatigué parce qu'ils ont fait la fête.
Et enchaîner le lundi matin complètement décalqué et tout. Ouais. Et elle dit, ouais, et en fait... c'est aussi ça, tu vois, la réussite, c'est d'accepter d'aller à l'encontre du modèle, en fait, qu'on veut t'inculquer depuis petit, en disant, mais non, en fait, moi, j'ai envie d'avoir du temps. Et tu vois ce que disait Anaëlle, c'est l'énergie, pour elle, c'est sa valeur la plus précieuse. L'énergie et le temps, en fait. Et les deux vont ensemble, bien sûr. Mais le temps, tu le récupères jamais. Jamais.
Ouais.
Et je t'assure, je parle comme une vieille, tu sais, une maman. le fait d'avoir deux petits, là, j'en ai une qui va avoir 8 ans et l'autre 4 ans, j'ai pas vu passer, en fait. Et je me dis, waouh, la vie, c'est maintenant. Moi, il y a des projets, je mets de côté, en fait. Et là, typiquement, je ralentis. Je suis dans une phase de croissance, j'aime pas ce mot, tu vois, mais à mon niveau, je suis dans une phase de croissance où là, j'ai trois filles qui bossent avec moi. Je suis trop fière de ça, sincèrement. Je me dis, mais c'est génial, c'est pour ça que tu le fais, tu vois, c'est hyper gratifiant. Je me dis, mais c'est top, c'était ton rêve. Et en fait, là, je suis arrivée sur... j'ai franchi une marche, tu vois, et je me dis, ben, ouais... pour l'instant, là, je suis bien. je suis tranquille et on va déjà structurer ça et voir si après, ça vaut le coup d'aller plus loin. Donc, en fait, s'il y a des missions là, qu'on nous a proposées sur la fin de l'année, plusieurs projets, bah, j'ai décalé. Et les gens attendront ou pas. Fort probable qu'ils n'attendent pas. Parce qu'en général, les gens sont pressés quand ils arrivent jusqu'à nous. Ils sont très, très pressés. Il faut être hyper actif. Donc, du coup, je pense que non. Mais c'est pas grave, ça fera de la place pour d'autres projets et tout. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est vraiment un truc aussi de freelance. Moi, je sais qu'on m'a toujours dit « Ah là là, mais dis jamais non, tu prends, machin, tu t'organises, tout ça. » En fait, non. C'est un luxe de pouvoir choisir et tout. Mais faites-le. Faites-le, choisissez. Et puis, bon, au pire, vous vous trompez, et puis ce sera pour la prochaine fois. Et n'hésitez pas à fermer des portes aussi pour qu'il y en ait d'autres qui s'ouvrent. Moi, j'ai jamais bossé avec autant de projets sur lesquels je m'éclatais qu'après avoir dit non à quelque chose où j'y allais un peu comme sur certains jobs que j'avais peut-être eu, où des fois j'allais un peu la boule au ventre, les trucs que t'as plus jamais envie de revivre quand t'es entrepreneur.
C'est clair.
Tu sais, mais pourquoi je suis pas bien pour cette réunion en fait, c'est pas normal. Et
déjà moi je fais plus de réunions, mais alors ouais, pour c'est que dans mon table, j'en ai très peu, mais
c'est ça. Mais et là je me disais, mais pourquoi je suis pas bien pour cette réunion, ce rendez-vous, tout ça. Mais bon, le corps envoie un signal en fait, c'est donc faut l'interpréter. Et ouais, quand t'es hypersensible, tout ce qui est sophrologie, yoga, méditation, c'est mis en place, on se reconnecter parce que t'as tellement, je pense par mécanisme de défense, t'as tellement essayé de, moi je sais que c'était ça hein, pendant des années, tellement essayé de déconnecter ton mental de ton corps parce que trop que du coup ouais, tu passes un peu en dernier en fait le corps et en fait non. C'est un super, super ordinateur et allié qui t'envoie des petits signaux aussi, et il faut faire super gaffe. Quoi. Donc,
complètement. Et dernière question de cet échange. Yes. Tu aurais quoi comme conseil à donner à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre, ou celles et ceux qui ont cette petite voix qui leur parle mais qui n'osent pas encore ?
Eh bien, alors, du coup, je vais être très bateau. Allez-y.
Mais non, mais c'est du bien de l'entendre plein de fois aussi.
Bah ouais, mais franchement, c'est tellement le meilleur conseil. Mais lancez-vous, et vous allez faire des erreurs, et vous allez vous planter. Et c'est génial, parce que du coup, quand vous allez vous planter, vous allez énormément apprendre, et vous allez repenser à ça, et vous allez en plus en tirer une super expérience pour aider d'autres personnes, et vous allez prendre en maturité. Vous allez, enfin, sincèrement, c'est l'aventure d'une vie. Vous n'allez jamais autant apprendre à vous connaître qu'en vous lançant en entrepreneuriat. Vous allez vous connecter à plein de gens. Vous allez aussi trouver des semblables. Ça, c'est génial aussi. Bien sûr, on a dit pas cultiver que de l'entre-soi, mais c'est aussi chouette forcément de trouver de la résonance chez les autres, et de monter des projets du coup à plusieurs, parce que du coup, effectivement, quand on se rassemble, on peut faire des trucs avec un peu plus d'impact, qui sont un peu plus volumineux, tout ça. Enfin voilà, chacun ses projets et tout, mais c'est toujours hyper intéressant. Mais vraiment, lancez-vous et ne vous dites pas, essayez de faire taire cette petite voix de perfectionniste, c'est hyper compliqué, mais dites-vous, j'aurais pas les réponses en fait avant de me lancer, c'est impossible, et je me sentirai jamais prêt, jamais je me sentirai assez confiant. Commencez par un petit truc, votre site sera pas prêt, votre personal branding sera pas prêt, votre offre sera pas prête, parce que en fait tout va se construire pendant que vous allez vous lancer. Parce que votre projet va se nourrir des rencontres, il va se nourrir des parcours des uns et des autres, il va se nourrir, vous allez continuer à vous former, à apprendre plein de choses. C'est vraiment une aventure, en fait. Il faut le voir comme un chemin et pas comme un point de départ. On appuie sur le bouton, il y a tout qui sort, c'est impossible. Et n'hésitez pas à partager aussi cette aventure. Ouais. Ça vous connecte encore plus aux autres. Ouais. Soyez transparent, en fait.
Parfait. merci. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne, quelque chose qu'on n'a pas abordé, tu te dis, ça pourrait être cool. Ça fait 1h30 qu'on échange, quand même, mine de rien.
Moi, je pense qu'on a, ouais.
Je laisse la porte ouverte au cas où, mais...
Je pense que sinon, je vais manger les sujets des autres. Mais non, je pense, on a balayé pas mal de choses. Ouais. Okay. Je suis assez fière de nous.
Très cool. Merci beaucoup, Céline. Bah,
merci infiniment. C'était vraiment super. Échange. Une heure et demie.
J'en ai encore mal, comme souvent, genre mal aux joues à force de sourire.
J'y croyais pas. C'était génial, franchement.
Merci beaucoup. Et on te retrouve, donc, tu le disais, sur les réseaux sociaux, les différents réseaux. sous ton nom.
Ouais, c'est mon nom, Céline Afonso-Tirel. Puis après, il y a les bienveillantes, entrepreneurs hypersensibles, tout ça. J'en ai pas parlé, mais il y a plein de petites branches à droite, à gauche.
On peut facilement te retrouver.
Ouais, bien sûr.
Trop cool. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
À bientôt.
À très vite.
Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravi d'avoir reçu Céline sur le pompon et d'avoir décortiqué notamment deux sujets, celui du community management et plus largement de la communication, et celui des profils atypiques. Alors j'espère que cet épisode vous a donné envie d'aller en découvrir un peu plus sur ce dernier sujet. Retrouvez d'ailleurs les liens des livres mentionnés dans la description de l'épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et surtout, d'ici là, prenez soin de vous !